Les invités de rap ce soir se battent pour la dignité humaine et, n'ayons pas peur de le dire, pour l'honneur de la France. Famille montrée du doigt, traquée, raflée, enfant arrêté par la police française, une impression de cauchemar, le souvenir des pires moments de l'occupation allemande. Sommes-nous donc occupés ? Non. La France, on ne le répétera jamais assez, est un pays riche, un pays démocratique, en principe, signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte des droits de l'enfant. La façon dont les autorités françaises traitent les enfants de familles sans papier en est d'autant plus scandaleuse, et nos invités sont donc, modestement, entrés en résistance. Le réseau Éducation sans frontières se bat depuis des années, au jour le jour, contre l'injustice, et leur action nous remonte le moral. Enseignants, parents, voisins, ils manifestent aux familles et aux enfants injustement discriminés une solidarité nécessaire, utile, comme une évidence. Et nous sommes fiers de les accueillir ce soir. Radio Apple Pie, émi public d'avant la centième, ça tourne. Bonsoir à tous. Avant de passer la parole à nos invités du réseau Éducation sans frontières, on va continuer avec cette nouvelle formelle que nous inaugurâmes tous en cœur et en grande pompe lors de l'émission de rentrée avec une petite partie magazine au cours de laquelle Pascal, bonsoir Pascal.
Bonsoir Juliette.
Nous fera une petite chronique bande dessinée au polar pour commencer.
On va commencer par le polar.
Commencer par le polar, bah c'est très bien. Ludo aura un petit coup de cœur ou de gueule, on verra ça. Bonsoir Ludo.
Deux interrogations.
Des interrogations, c'est bien. Et Letty, je ne sais pas si tu auras quelque chose à nous révéler pendant ce...
On verra selon l'humeur.
D'accord. Je vais commencer très brièvement parce qu'en fait, j'ai hésité à faire un édito avec ça. Et puis, en fait, c'est très compliqué. Parler du Darfour, en fait. Donc, brièvement, le Darfour, qui est une province du Soudan à l'ouest du pays, qui est en guerre civile depuis 3 ans. Et avec déjà plus de 2 millions de personnes déplacées, réfugiées, je crois que... Vous aussi, les invités, vous êtes bien au courant de tout ça. On en reparlera peut-être. C'est aussi plus de 20 000 personnes qui ont été assassinées. Et c'est surtout là où on voulait en venir depuis fort longtemps, parce qu'Amnesty International avait fait un numéro spécial en juillet-août. De nombreuses femmes de tous âges, et notamment des enfants, qui sont régulièrement violées. Bon, on sait, c'est pas récent, hein, que les populations civiles morflent toujours dans ces cas-là, et que les femmes... sont les premières victimes et que le viol est une arme de guerre. Disons que là, si on lit ces pages d'Amnesty, c'est vraiment effrayant. Je vous invite tous à aller sur leur site, à leur écrire, à participer à leur action contre ce qui se passe au Darfour dans un certain silence, somme toute, parce que ce sont des gens qui sont, par exemple, je lisais encore cet après-midi, des petites filles qui sont violées des nuits d'affilée, des femmes auxquelles on casse les bras et les jambes pour qu'effectivement elles ne puissent pas s'enfuir, des femmes évidemment qui ont des honneurs devant les familles. Bon, ça c'est une pratique qui ne se fait pas que là-bas. Et donc voilà, bon, c'est vrai que j'en ai pas fait un édito aussi pour une bonne raison, qui est que c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe exactement. Ça n'est pas une guerre ethnique, ça n'est pas une guerre religieuse. Il se trouve que le pouvoir de Khartoum encourage des seigneurs de guerre, malheureusement, à perpétrer des actes assez atroces contre les populations, et notamment les femmes. Voilà ce que j'avais à dire. Ludo, tu as des interrogations ?
J'ai des interrogations, effectivement, de la difficulté de passer de la réalité à la fiction. Juste, puisqu'on a la partie magazine, faire un point sur quelque chose qui avait été évoqué dans la chronique cinéma de la dernière quinzaine, à savoir, nous étions restés prudents parce que ce n'était pas vérifié à l'époque, maintenant c'est effectivement le cas, Saw 3 de Darren Lynn Bousman a été interdit aux moins de 18 ans. Alors, reprécisons le... Voilà, l'intérêt du point, c'est de repréciser le contexte quand même. Donc, ça fait quelque temps que ça. Pour ceux qui ne connaissent pas Saw 3, quand même, hein, dire de quoi il s'agit. Troisième épisode d'une série thriller horrifique, particulièrement. Enfin, particulièrement. Oui. Assez.
Voilà, qui prend des précautions oratoires, même Ludo.
Non, mais non, je sais que Letty a passé une heure et demie d'enfer derrière un canapé pour échapper à la vision de la chose. Voilà, donc ce thriller horrifique avec beaucoup de retournements de situation et une horreur graphique assez poussée selon les standards du film d'horreur actuel. Et on va revenir très succinctement. Donc, pour dire qu'il a bel et bien été interdit. Au moins 18 ans, donc après. Alors, je vous épargne les tribulations à la commission de contrôle. On pourra se reporter avec intérêt à l'article paru dans l'Express en date du 21 novembre pour voir comment ça puisse produire. Notre bon ministre de la Culture a donc paraphé la chose, assorti d'un communiqué du ministère. Texto. Après avoir visionné Saw 3, le ministre Renaud Donadieu de Vabre estime que la violence et le sadisme incessant et insoutenable de scènes s'apparentant explicitement à des tortures physiques et morales justifient pleinement cette décision d'interdiction. C'est pour ceux qui connaissent l'histoire de la censure en France, c'est très étonnant comme la prose, dirons-nous, des ministères et des commissions de contrôle se ressemble, quelle que soit la décennie dont on parle, l'année 70 y compris. Alors juste pour dire que dans le... Donc évidemment, branle-bas de combat, hein, les distributeurs avaient fait appel, c'est passé deux fois en commission de contrôle. La SCRF, Société des réalisateurs français, ainsi que le Groupement National des Cinémas de Recherche ont fait un communiqué dans lequel, je cite, il réaffirme leur opposition à l'interdiction au moins de 18 ans du film d'horreur américain Saw 3. D'après tous les observateurs, la violence des images de Saw 3 n'est en rien supérieure aux standards du cinéma de genre codifié et second degré plébiscité par les adolescents, etc., etc. Alors, évidemment, à titre personnel, ce qui n'engage que moi et pas forcément toutes les personnes autour de cette table, évidemment, je soutiens ce type d'initiative. Ceci dit, il faut faire quand même très attention aux défenseurs d'une cause, quelle qu'elle soit, parce qu'elles sont souvent ses ennemis. Parce que, quand je vois codifié, ok, et second degré, quand par ailleurs dans l'IB, du samedi 11 novembre, on peut lire l'article « Les films d'horreur dans l'angoisse », je cite l'article, « En frappant un genre, elle menace, donc l'interdiction, hein, cependant un secteur au standard convenu et très second degré. »
Oui, d'accord, je commence à comprendre où tu veux en venir, effectivement. Ouais.
Voilà. Alors, effectivement, alors entre la position rigoriste morale des personnes qui prennent, enfin, en l'occurrence, des gens qui ont voté l'interdiction moins de 18 ans, qui prennent tout au premier degré, et l'autre extrême, des personnes qui prennent tout systématiquement au second degré, en oubliant que le cinéma d'horreur, et Saw 3 en fait probablement les frais, c'est certes divertissement, mais le fantastique et l'horreur, c'est aussi pour déranger, choquer et éventuellement laisser un goût amer dans la bouche après la projection. Il me semble que toi-même, après avoir vu Le Mort-Vivant il y a quelques années, tu en as gardé
c'est gentil de dire il y a quelques années, étant donné que je l'ai vu en salle.
un souvenir impérissable. Il y a une quinzaine, je parlais de Calvaire de Fabrice Duvels et je disais on morfle et on remercie Fabrice Duvels de morfler. Effectivement, il est important que le cinéma d'horreur garde, et c'est ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle, de reconquérir plutôt son côté subversif, parfois, voire politique, transgressif et dérangeant.
Bah oui, eh bien merci. Non, mais c'est vrai, de toute façon, sinon, c'est vrai que ça pourrait concerner le cinéma en général, et puis pour parler de musique subversive ou non, en tout cas violente, différentes formes de rock'n'roll qu'on affectionne particulièrement.
Certes.
Donc voilà. Pascal, je crois que c'est le moment...
De la chronique.
Mais si tu le souhaites.
Ouais. Moi, sinon, je voulais un truc à dire. Il y a un truc qui m'a surpris un peu cette semaine. C'est qu'il y a eu un reportage sur une chaîne de télé sur un établissement qui fichait, en fait, ses élèves. Vous n'avez pas vu ? Qui code-barrait ses élèves. Donc, je me suis dit, moi qui est amateur quand même de SF depuis certains temps, je me suis posé la question. Tiens, bizarre, ça me rappelle quelque chose.
Pour lutter...
En fait, pour l'absence.
Pour lutter contre l'absentéisme.
Tout à fait.
Et j'ai trouvé ça quand même assez étonnant, quoi. Donc effectivement, c'est certainement plus facile pour la direction et pour les profs peut-être ou de gérer la chose. En même temps, c'est hyper dangereux, quoi.
Et puis ça manque un petit peu de dialogue en même temps.
Bah oui, c'est-à-dire si tu veux quand même attirer les élèves qui ont de plus en plus de mal effectivement à aller en cours, je vois pas comment tu peux faire ça avec effectivement le code barre.
Directement en fait, avec un code barre, oui, c'est ça.
Ça me paraît bizarre.
Le système du code barre est relié au téléphone des parents, donc ils appellent le numéro, se fait systématiquement et ils ont les parents au bout du fil. Wow. Donc il y a pas de dialogue entre les enseignants et les enfants pour savoir les raisons pour lesquelles ils sont aussi souvent absents.
C'est donc quand même quoi bien s'inquiéter. Fait. Merci Roselyne de cette précision. Bon, Roselyne, avec laquelle on va dialoguer sans tarder tout à l'heure, mais qui a bien fait d'intervenir. Et d'ailleurs, non, bien sûr que Marie-Hélène, Marie-Laure, Pierre et tous les copains de RESF, vous pouvez intervenir sur ces points sans problème.
Voilà, donc on va revenir au polar pour l'instant, avec Deux secrètes injustices de Xavier Hanotte, qui est paru aux éditions Nord. C'est un gros pavé quand même, mais il vaut 16 euros, mais c'est très bien. Et donc, Xavier Hanotte, il est né en fait à Mont-sur-Marche-Mono, en Belgique, en 1960. Depuis, il vit en Bruxelles. Il est diplômé en philologie germaniste, documentaliste et analyste d'informaticien. Il a traduit quelques-uns des plus grands en fait, romanciers flamands, pas dans la bibliothèque rose, hein. Que je vous vois venir, hein, les enfants, hein, le flamand rose, ça bah vous plaît
toi,
forcément.
Ouais, non.
Hein, Hubert Lampeau, Walter van den Breck, Maarten Hart, c'est des gens que vous connaissez certainement pas, mais dont je vous engage à voir et chercher un peu en librairie si vous les trouvez. Ça va être difficile, à mon avis.
Déjà, il faut retenir les noms.
Voilà.
Non, mais si tu vas dans certaines bonnes librairies spécialisées du quartier.
Non, peut-être mais il suffit d'aller sur le site de la radio et de lire les chroniques que je tape toutes les semaines.
Voilà.
Elles ont mal, d'ailleurs.
Voilà, donc son premier roman, Xavier Hanotte, qui s'appelait Manière Noire, paraît chez Belfond en 1995. Suivent Deux secrets injustices en 1998, Derrière la colline en 2000, et quelques nouvelles après, on arrive en 2002 avec Les liens communs. Mais tous les romans en fait se suivent et on va pas se dire se ressemblent mais ont un thème commun quelque part que je vous expliquerai après. Il a traduit aussi un poète anglais, Wilfrid Owen, qui est un poète en fait qui a écrit dans les tranchées pendant la guerre de 14 et qui a un témoignage très très fort, très sombre et très désespéré sur l'humanité désespérée de ce qui vivait dans les tranchées. Et je vous encourage vraiment à lire le recueil qu'il a publié, qui s'appelle, que je dise pas de bêtises, Et chaque lent crépuscule, qui est paru au Castor Astral. Si vous pouvez vous procurer, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment très très beau, certes très noir, mais en même temps très poignant et vraiment magnifique. Voilà. Donc le thème central, effectivement, des romans de Xavier Hanotte, c'est la guerre, sauf que sa force, c'est d'arriver à travers une énigme policière et un récit historique à faire parler les morts, à ramener les morts à la vie et de témoigner de
l'horreur de ce qu'ils ont vécu.
Voilà, tout à fait.
Que c'était ça, là.
Voilà. Et donc, bon. Au départ, il y a un personnage qui s'appelle l'inspecteur Barthélemy Ducerte. Bon, personnage récurrent qui apparaît dans deux trois romans en fait d'Hanotte, qui s'est engagé dans la police parce qu'en fait il a paumé sa copine est partie dont il était fort amoureux, sa copine est partie avec un autre homme, donc du coup il s'est dit bon c'est pas plus bête qu'autre chose, on va rentrer dans la police. Bon, des gens un peu bizarres.
Heureusement que tout le monde ne le fait.
Oui, mais pourquoi pas après tout,
la c'est police de bonne raison peut-être.
Plutôt que effectivement rentrer dans la police pour des raisons un peu, comment dire, fascistes, et lui rentre parce qu'il a paumé sa copine.
D'accord.
Et donc c'est vrai qu'il prend le côté policier plutôt d'une façon contemplative, en disant je suis...
Il y arrive
Oui, enfin, pas toujours, hein, mais je suis avant tout le témoin de notre époque, et je suis là pour apporter certaines choses, et peut-être agir si je peux en conséquence.
Tête de tous nos invités autour de la table.
Voilà, donc c'est un peu... Oui. Il y en a qui, forcément, sont sceptiques. Et ce n'est jamais qu'un roman, il faut bien le dire.
Voilà.
Ah, ça rassure.
Bah oui. Donc, en fait, Barthélemy se retrouve devant une intrigue assez bizarre. Parce qu'un soir de Noël, il se retrouve devant le cadavre d'un SDF dans une ruelle de Bruxelles. Et dans l'urinoir public qui est à côté, un professeur d'origine allemande qui est révisionniste et qui écrit Bédbal. À côté de lui, il y a un tag.
Comme quoi, des fois, ça va bien ensemble.
Bah oui. Il y a un tag qui est écrit en hébreu et il a dans sa main un ticket de métro avec marqué dessus Danton. Curieux quand même.
Oula. Hein.
Donc ça va amener Dussert à une enquête qui va l'amener à un fait historique belge, un massacre dans un village pendant la Deuxième Guerre, qui est la cause vraiment du meurtre. Et ce qui est intéressant dans les romans de la note, c'est qu'en fait, il campe très très bien ses personnages au niveau psychologique. Il décrit très très bien le microcosme dans lequel ils évoluent. Et l'atmosphère, une atmosphère un peu la Simenon. Il prend vraiment son temps pour décrire des choses. On n'est pas du tout dans un thriller à la va-vite américain, etc. Il prend vraiment son temps. Il a des bases historiques et aussi bien sur l'art, etc., sur la culture, qui sont vraiment très très intéressantes. Et ça baigne dans une atmosphère très onirique, très proche, on va dire, de les grands auteurs belges, hollandais d'une certaine époque, style Jean Rey, Thomas Owen. Donc ça cultive cet univers-là, et on retrouve tout ça. Ce qui fait qu'il arrive à dénoncer l'absurdité de la guerre à travers, effectivement, la voie des morts, mais sans être glorifié la bêtise du patriotisme, mais plutôt effectivement parler des gens, de ce qu'ils ont vécu, et surtout effectivement de ce qu'ils ont ressenti et subi, bien sûr. Voilà. Donc c'est un super bouquin, roman très très fort, mais qui n'est pas dénué d'humour, parce qu'il y a quand même de l'humour, parce que forcément les Belges ont de l'humour.
C'est bien connu.
Bah. Les Noirs ont le sens du rythme.
Non, je voulais juste un petit passage.
Je tiens à préciser que les comédies belges sont souvent beaucoup plus drôles que les comédies, ce qu'on appelle française, la comédie labellisée française.
En fait. Voilà. Et Annie Cordy a été rigolote. Hein.
Bah, bien sûr, il y en a plein. On en a discuté aujourd'hui avec Guéluc, parce que Guéluc était présent au Havre aujourd'hui, donc on en a discuté un petit peu avec Guéluc.
Est-ce que Michel Drucker le fait rire?
Bon, ça, c'est une question de...
Il paraît qu'il est très drôle.
Hors antenne.
Bon, allez.
Mais bon.
Sachant les en garde.
Voilà, donc ils sont en route pour aller dans un village belge. Ce soir, plutôt que d'additionner les marques de voitures ou leur nationalité, je lisais au hasard leurs plaques minéralogiques. Plus précisément, les trois lettres inaugurales, en quête de combinaisons comiques ou inattendues. Le caractère obscène de certaines motivait leur interdiction d'office par l'administration. C'était sans doute heureux. Mais vu l'importance du parc automobile national, j'avais vaguement calculé que pour un mot proscrit, les fonctionnaires devaient en laisser passer trois au moins, jugé bénin. Faute de quoi, il deviendrait bientôt impossible d'attribuer un nombre insuffisant d'immatriculations. Ainsi, le moindre trajet routier livrait-il sa moisson quotidienne de feu 111, d'air 222 et d'eau 333, pour n'évoquer que les plus convenables. Ce soir, la récolte donnait plutôt dans l'intestinal. J'ai aperçu un Gaz 521 à la hauteur de Malines et un Pé 449 avant Zemst. Mais après quelques kilomètres et un X712, je craignis de régresser davantage et changer de passe-temps. Voilà, c'est comme des notes d'humour parfois qui sont
très
drôles.
Bah oui.
Si, c'est un jeu qu'on a connu tous, je pense, lisant les plaques d'immatriculation. Donc du coup, je pense que dans ce roman, je suis content de l'avoir effectivement lu. Et
allez-y, voilà. Vas-y, regarde-le.
Et je ne suis pas tombé à côté de la plaque.
Ah, bon, Pascal, oui.
Voilà, donc ça s'appelle Deux secrets inavouables. Non, pas inavouables, indiscrets.
Deux secrets d'injustice.
Deux secrets d'injustice, pardon, excusez-moi, ça y est.
De Xavier.
Anote chez Espace Nord. Et ça vaut 16 euros.
Voilà. Bravo et merci. Je tiens quand même à dire que nos invités annoncés, en tout cas de ce soir. Roselyne, Marie-Hélène et Marie-Laure sont là, en effet, accompagnées de Pierre, et pas seulement d'ailleurs. Et j'ai dit qu'elles étaient sceptiques quand tu parlais des différentes capacités des policiers. Et Pierre a rajouté, mais non, tu te trompes, ce sont des fausses sceptiques.
Bien sûr. Non, mais je crois que c'est comme, certains Onyx, ou certains Robin Cook, ou des choses comme ça. En fait, ils se servent de personnages, comme on a dit toujours, de flics, ou de...
Ordinaire.
ordinaire ou blessé ou mort, c'est mieux parfois.
Je vous arrête tout de suite parce que le débat sur à mon flic est-il un flic mort, nous l'avons eu longuement à ces micros, nous l'aurons encore et il faut briser là. Je crois que tu voulais nous présenter quelque chose ou plus tard peut-être.
Bah plus tard, on en parlera peut-être plus.
D'accord,
plus
on en parlera dans la série Agenda. Eh bien, est-ce que cette petite partie magazine est terminée ? D'accord. Forêt sur Radio Apple Pie, ça n'est pas la première faute, hein, qu'est-ce que c'est que ça? Et on avait dit que dans cette nouvelle formelle, donc depuis la rentrée, on passerait plus régulièrement des groupes locaux à défaut de leur donner la parole pour des émissions, parce qu'on n'a pas tant d'émissions que ça, on fait ce qu'on peut. Donc là, c'est Forêt qui ont fait un bel effort de chanter en français exceptionnellement pour la 3e édition du CD Polaroid Rock, et en l'occurrence sur un texte de Philippe Huette qui s'appelait « Rebelle ». Voilà, à toi Letty.
Eh bien, ce soir, nous recevons Marie-Hélène, Marie-Laure et Roselyne du réseau Éducation sans frontières du Havre pour faire le point sur la situation locale des enfants de familles sans papier. Il y a aussi Pierre qui, lui, est parrain d'enfants sans papier. On va voir durant l'émission en quoi c'est important aussi d'avoir des parrains et des marraines dans ce genre de situation. Roselyne, elle était à nos micros en juin dernier, juste avant le début des vacances scolaires, avant les régularisations promises et les rejets redoutés, à l'occasion d'un appel à parrainer les enfants et leurs familles. L'été est passé, un certain nombre d'enfants ont été régularisés, ici comme ailleurs, un nombre sans doute établi à l'avance, avant même que tous les dossiers ne soient consultés. Les uns et les autres nous diront ce qu'il en est aujourd'hui, comment la mobilisation continue, qu'est-ce qu'il faut faire encore. Et pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet déjà en disant bonjour à nos invités qui se sont déjà manifestés lors de la première partie magazine. Donc c'est bien, ça veut dire que vous êtes à l'aise. Donc bonjour à tous et toutes et bienvenue au micro de Radio Apple Pie.
Bonsoir.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer tout de suite. On a dit que RESF, c'était le réseau Éducation sans frontières. Comment s'est constitué ce réseau? À quel moment est-ce qu'il s'est constitué au niveau national et puis, bien sûr, au niveau du Havre?
Alors, le réseau Éducation sans frontières au niveau national s'est constitué en 2004. Et puis, petit à petit, s'est révélé en France des situations identiques de familles qui étaient sur le point d'être expulsées et qui avaient des enfants scolarisés. Donc, est née petit à petit l'idée de, effectivement, créer des collectifs dans diverses villes de France. Nous, au Havre, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est en réseau, en collectif réseau d'éducation sans frontières. Ça a été surtout, ça avait commencé un peu avant, mais ça a surtout vraiment démarré quand la famille qu'on n'a pas nommée, excusez-moi, par réserve pour eux-mêmes, quand les enfants de cette famille ont été arrêtés dans un établissement scolaire du Havre, avec la complicité de l'administration. Et donc, à ce moment-là, le réseau s'est vraiment mis en place. Malheureusement, il s'est mis en place après leur expulsion parce que nous avons été prévenus tardivement de cette affaire. Et suite à cela, bah, petit à petit, on a commencé à connaître plusieurs affaires sur la ville du Havre grâce à des enseignants qui nous ont interpellés, à des parents d'élèves aussi, sur des enfants qu'ils connaissaient dont les parents étaient sans papier.
Là, je crois que tu as déjà bien posé les bases d'un certain nombre de questions sur lesquelles on va revenir. Merci, Roselyne. Parce qu'en fait, évidemment, on sait que pas mal d'enseignants sont mobilisés. On l'a dit aussi des parents. Et justement, que ça soit à Paris, mais bon, peut-être que c'est mieux que vous parliez de votre propre expérience, même si elle peut illustrer ce qui se passe au niveau national. Comment sont concrètement manifestées les solidarités, ou en tout cas peut-être les premiers réflexes, les premiers noms, quoi, les gens qui ont été choqués, ici en tout cas, comment ça s'est passé, par établissement, où il y a eu quelque chose de coordonné? Est-ce que c'est venu? Je sais que certains d'entre vous ont fait partie de collectifs de sans-papiers. Enfin, je sais que c'est un peu large comme question, mais vous répondez comme vous le souhaitez. Marie-Hélène Rosemarie?
Non, Roselyne, plutôt. Ben en fait, on était déjà un groupe qui avions soutenu les sans-papiers il y a maintenant 10 ans, en 98, à l'église à Cocrioville, qui avait été occupée pendant une année. Et à la suite de tout ça, ben, à AC, dans le local de AC, qui nous prête sympathiquement leurs locaux, il y a Claude qui fait la permanence pour les dossiers des sans-papiers. Donc on était toujours resté un petit groupe en lien comme D'accord. ça, que nous connaissions, qui avons lutté depuis très longtemps, enfin longtemps sur ce problème. Et donc, en fait, comme il n'y avait plus de collectif de soutien de sans-papiers, puisqu'il n'y a plus de collectif de sans-papiers...
Oui, voilà, parce qu'effectivement, je te coupais brièvement, hein, on avait reçu, donc ça fait déjà 3 ans, je dirais, Patrick Dassé qui est là, peut-être souvenir de ça, donc on renvoie nos audinotes à cette émission, Aruna, Farida, un certain nombre de personnes du collectif des sans-papiers, et aussi Agir contre le chômage, effectivement, qui était là pour le collectif de soutien aux sans-papiers.
Et donc, ben, tout naturellement, comme tu le disais tout à l'heure, effectivement, ça peut paraître un peu pompeux de dire ça, mais effectivement, on est rentré en résistance, puisque aujourd'hui, la solidarité en France est un délit et punie par la loi, puisque Sarkozy a fait une loi sur ce sujet-là. Donc, ben oui, c'est une forme de résistance, c'est une forme de désobéissance civile, et je pense qu'on en est tous fiers, quoi, et on le revendique fortement.
Donc ça, c'était pour vous, ceux qui étaient déjà impliqués depuis longtemps, et ben, on vous en remercie dans cette lutte. Et ensuite, comment vous avez pu voir au niveau, pour ceux qui sont enseignants, des collègues, au niveau des familles, parce que au niveau national, bon, je fais une bref parenthèse, c'est vrai qu'on a été étonnés et contents, j'y faisais allusion aussi tout à l'heure en présentation, du fait que des gens, parfois, qui n'avaient jamais milité... étaient tellement choqués, y compris une fois, bon, peut-être c'est un seul exemple, j'en sais rien, mais de gens qui étaient à l'extrême droite, enfin, qui votaient extrême droite et qui tout d'un coup disaient ça ne peut plus durer, quoi. Donc comment vous avez vécu ces réactions-là ?
Ben, nous, on n'a pas eu trop ce type de problème-là, parce que bon, c'est pour moi personnellement, ce serait plus un problème pour moi que quelqu'un d'extrême droite vienne me dire ça me dérange. Ou bon, nous en fait,
ça serait matière à discussion.
oui, c'est matière à discussion, bien sûr. Nous, ce qui s'est produit, c'est que on a su que dans une école du Havre, vers le rond-point, il y avait un problème sur une famille qui allait être expulsée. Donc ça a commencé par une école, et ensuite, ben, les gens qui étaient dans le réseau, on était un petit nombre, on a commencé à faire de la pub autour de nous en disant qu'il fallait qu'il y ait du monde qui vienne nous rejoindre, et puis on a commencé à, entre guillemets, prospecter dans les écoles, parce qu'il faut savoir que les familles ne se déclarent pas sans papier, bien évidemment. Hein, à l'école, on n'a pas à dire on est sans papier, ça regarde personne, de toute façon, c'est leur vie privée.
C'est ce que j'avais envie de rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est que, je dirais, cette explosion de connaissances de familles et d'enfants, de parents sans papier, elle a été possible aussi parce qu'il y a eu une médiatisation à un certain moment par rapport à un événement, parce que bien sûr que d'emblée, une famille ne va pas arriver à l'école ou un enfant ne va pas arriver à l'école en disant « bah voilà, moi je viens à l'école, mais j'ai pas de papier ». Et là où il y avait une peur... par rapport à l'école, par rapport au corps enseignant, pas spécialement uniquement par rapport aux enseignants, mais par rapport à l'autre en général, de dire qu'on est sans papier, là au contraire, c'était quelque chose de... L'école est devenue un endroit de protection, encore un peu plus, par rapport aux enfants, et un endroit de mobilisation pour pouvoir aider les familles de sans papier et les enfants de parents sans papier.
Et tout à fait, parce que justement, dans la mesure où ça commençait à être à ciel ouvert, si on peut dire, on a lancé une pétition au niveau national, quand je dis il n'y a pas de RESF sur Paris, comme on pourrait l'entendre quand on dit national. Hein. Quand je dis national, c'est en France. Donc il y a eu cette pétition qui a été lancée qui s'intitulait « Nous les prenons sous notre protection » et qui avait récolté 125 000 signatures. Ce qui n'est quand même pas rien.
Oui, non, effectivement.
Ce qui n'est pas rien. Et c'est ce qui, comme tu dis, ça a permis aux gens de dire, bah, effectivement, il y a un réseau, il y a des gens qui sont là, qui peuvent nous aider. Et que, contrairement à ce qu'on peut croire, ça a vraiment donné une ampleur au réseau sur la France. Parce qu'effectivement, les gens ont osé dire, eh ben, nous, on est dans la galère, on n'a pas de papier.
Alors, pour en revenir, parce que c'est vrai qu'on disait que tu étais venu en juin, à un moment où, effectivement, c'était un peu crucial, puisque toujours notre bon Sarkozy avait, dans sa grande mansuétude, déclaré que les enfants qui étaient scolarisés ne seraient pas expulsables. Or, évidemment, là, c'était bientôt le début des vacances d'été. Donc, peut-être un petit retour sur ça, sur, justement, les dossiers qui étaient en attente d'être étudiés, le médiateur... si vous voulez en parler. Le... voilà. Et puis, bon, voilà,
il parle très bien de
le nombre de dossiers. Et puis, et voilà, et comment ça s'est passé très concrètement. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, je veux dire, au fur et à mesure de l'été, on a bien entendu qu'il y avait des expulsions totalement injustes, à supposer qu'il y en ait des justes, mais bon.
Eh ben, les dossiers étaient préparés soit par les travailleurs sociaux des foyers, quand ils voulaient bien le faire, enfin, c'était le cas pour la plupart des foyers. Par contre, il y avait pas mal de familles logées notamment par le FAMU, où les assistants sociaux ne voulaient absolument pas faire les dossiers. Donc ils se sont retournés souvent vers la Ligue des droits de l'homme,
dont tu fais partie, Marie-Hélène.
Dont je fais partie, et qui fait une permanence tous les mardis de 17h15 à pas d'heure. Et sur AC aussi, sur Claude, et on a monté les dossiers pour les familles qui se présentaient ou qui nous étaient indiquées par les directeurs d'école, comme c'est arrivé plusieurs fois.
Est-ce qui pour Le Havre représentait combien de dossiers, rappelez-nous ?
Nous, on avait une quarantaine de familles dans le réseau, mais en fait, il y en avait beaucoup plus. Hein. Mmh. Il y a toutes les familles, notamment au foyer Sonacotra à Plemont, ne font pas partie du réseau. Mmh.
Parce que toujours pareil, il y a un certain nombre de familles, malgré la médiatisation et la possibilité peut-être d'être régularisées, ont préféré ne pas sortir de l'ombre.
Oui, ou parce qu'elles étaient bien soutenues par les travailleurs sociaux de leur foyer. Donc elles ne jugeaient pas nécessaire d'avoir un autre soutien.
Ah, okay. Ouais, puis c'est ça aussi, c'est éviter de faire des doublons par rapport à des interventions où effectivement les familles qui étaient accueillies en structure, qui étaient déboutées du droit d'asile et qui devenaient du coup sans papier... J'irai entre guillemets, il y a toujours une note sociale qui est ouverte dans le sens où il y a quand même un état des lieux de la situation de la famille qui est mise à jour. Et évidemment, cette note sociale, elle sert pour les demandes de régularisation. Oui. Et c'était d'autant plus important que le réseau travaille par rapport aux familles qui, elles, n'étaient pas accueillies en structure, parce que c'est bien ça le problème aussi, c'est qu'il y a eu un certain nombre de dossiers de familles qui ont été présentés, qui étaient hors structure, pour lesquels il y avait effectivement vraiment besoin d'avoir un soutien de personnes compétentes pour pouvoir faire les dossiers.
Donc. Oui, parce que les critères étaient nombreux quand même, donc il fallait vraiment pas mal de preuves, il fallait... on a eu le soutien, et là c'était intéressant, parce que, par exemple, il y a plusieurs familles avec des notes de soutien du boucher du quartier, du boulanger, de gens qui n'ont pas l'habitude de s'impliquer dans ce genre de choses, quoi, de voisins, de
ça fait plaisir,
les choses comme ça.
Parlant de soutien, est-ce que les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves jouent un rôle dans cette lutte?
Oui, tout à fait, ils sont extrêmement présents, enfin les syndicats enseignants, et puis aussi la FCPE. Pas les syndicats de parents, c'est la FCPE.
Et puis il faut aussi parler des associations sur le Havre qui viennent en aide aussi aux sans-papiers, hein, parce que il y a l'Entente protestante, il y a le Secours populaire, le Secours catholique. Tous ces gens-là se sont aussi mobilisés, parce qu'il faut quand même savoir que le coût d'une régularisation s'élève à 1 300 € par famille. Pour des gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas de moyens, c'est quand même très lourd à gérer.
Alors attends, je vois que Marie-Hélène...
Oui, non, moi je pense un petit peu, parce que ça fait quand même pas tant que ça, dans la mesure où la visite de l'OMI coûte 4 timbres fiscaux à 55 €, donc 220 € par personne. On a une taxe de chancellerie qui est de 78 à 198 € selon la nationalité. Donc en gros ça fait 400 € auxquels il faut rajouter naturellement, pour les familles qui n'ont pas de passeport, le passeport. Bon, c'est vrai que dans certains cas ce passeport est à des prix
Non, c'est bien que vous précisiez. En fait, Pascal ici présent, qui n'est pas uniquement effectivement chroniqueur de polar et de BD pour le meilleur et pour le pire, a parlé des petits bulletins de soutien il y a 15 jours autour de ce micro, et aussi c'était des chiffres effectivement qui sont toujours durs à évaluer, hein, mais enfin de ce que ça peut coûter effectivement pour les gens, et que c'est important
mais de soutenir. Ceci dit, ça peut aller effectivement jusqu'à
au plus fort
ça peut aller jusqu'à une famille mongole de 5, c'est 1 300 €. Le passeport, enfin tout rassemblé, hein.
Pierre, Ludo.
Oui, je voudrais simplement dire que, bien sûr, il y a les frais qui concernent plus directement la régularisation, Mais comment faire pour vivre, par exemple, une femme seule avec trois enfants, un cas que je connais, qui touche 13 euros par semaine pour chaque personne de la famille, qui reçoit une dizaine de tickets de bus par mois, comment faire sans une autre aide ? Et en sachant aussi que non seulement il y a la question matérielle, mais il y a une espèce d'inexistence qui est liée à la condition de sans-papiers, c'est-à-dire que c'est comme si on était transparent, si on va dans une administration, si on se présente quelque part, on n'existe pas.
Et justement, on pourrait profiter pour parler un petit peu de la sous-préfecture.
Écoute.
Hein ? Justement, Pierre disait « ce sont des gens qui n'existent pas ». Pour avoir été dans une autre sous-préfecture, une autre sous-préfecture que celle du Havre, on peut dire que au Havre, on est particulièrement mal servi, et qu'il y a un mépris des gens dans la sous-préfecture, une façon de s'adresser aux personnes comme si ils comprenaient rien, interpellant les gens dans le hall. Bon, ils racontent pas leur vie, mais limite, pour certains, il y a effectivement, au niveau des sous-préfectures, un dysfonctionnement important suivant le département où vous habitez. Et justement, le RESF a mis en place une demande d'enquête au niveau gouvernemental pour la discrimination des traitements, par rapport à la discrimination des traitements des dossiers, qui est extrêmement importante, parce que nous, on peut dire que sur le Havre, on est particulièrement servi sur la discrimination.
On recherchait les témoins parce qu'on avait noté quelque chose par rapport à ton intervention de juin. Une phrase du sous-préfet, je pense que c'est lui-même, comme quoi, si ça ne tenait qu'à lui, les enfants ne seraient pas scolarisés, comme ça ferait un pas problème de moins.
Non, c'était pour rebondir sur la question du passeport, parce que hors frais financiers, il se trouve aussi le fait qu'une partie, alors proportionnellement, ça je ne le sais pas, vous pouvez peut-être échouer, une partie, je suppose, assez importante de ces familles sont des demandeurs d'asile déboutés. Donc qui dit demandeur d'asile dit fuite par tous les moyens possibles du pays, parfois le plus souvent même sans papier, passage. Enfin, vers un autre pays en bateau ou en avion, le plus souvent avec la démerde, les moyens du bord, les connaissances. À partir du moment où une personne vient dans un pays pour demander l'asile, combien même elle serait régularisable, il faut qu'elle fasse la démarche auprès de l'ambassade, des consulats, pour récupérer un passeport, ce qui présente en soi un obstacle assez important.
Voire un risque.
Évidemment.
Oui. Parce que là, ça définit, il annonce vraiment de quel pays il vient. Parce que le problème, c'est que quand ils veulent expulser les gens, si les gens n'ont pas de passeport, ils ne savent pas où les expulser. S'ils ont un passeport, effectivement, ils ont une nationalité et obligatoirement, ils ont un pays. Donc, ça facilite à la police et au gouvernement l'expulsion de ces personnes-là. Parce qu'ils ont un lieu
pays d'origine vers lesquels on peut les renvoyer les conditions de confort que l'on connaît.
On a vu aussi, ça s'est vu, durant l'été, des personnes qui faisaient la démarche auprès de leur ambassade ou du consulat pour récupérer, pour faire une demande de passeport, à qui on disait, mais si vous avez perdu votre passeport, vous n'existez plus pour nous. Donc ne nous demandez pas un autre passeport. Puisque en plus vous faites la démarche de demander l'asile politique dans un pays parce que vous dites que vous êtes pas bien chez nous, venez pas nous demander de passeport. Donc c'est pas une démarche facile en soi que d'aller demander un passeport à un consulat en France.
Là on a un problème justement avec une famille mauritanienne qui a son récépissé après donc avoir payé la visite de l'OMI, les frais de chancellerie, etc. Bon, ils étaient enfin soulagés, chic, ça y est, on va avoir la carte de séjour. Eh bien non, parce que maintenant, on exige un passeport pour les Mauritaniens, chose qui ne se faisait pas avant. Il y avait une espèce d'accord. Qui faisait qu'ils étaient dispensés de passeport. Or, pour avoir un passeport mauritanien, il faut d'abord le demander en Mauritanie. Et pour demander un passeport en Mauritanie, il faut avoir été recensé comme appartenant à la Mauritanie. Chose impossible pour quelqu'un qui a quitté son pays depuis 6 ou 8 ans.
Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, les gens qui sont au pouvoir sont les mêmes qui ont torturé et massacré à une époque entre 89 et 91 et qui fait qu'aujourd'hui, des Mauritaniens sont en France et ailleurs. Donc il est clair qu'on ne peut pas demander de papier.
Ce qui nous permet de saluer, avant de passer le prochain morceau, de saluer Idriss, qui n'est pas là ce soir, mais j'espère qu'il écoutera cette émission. Thank you.
in the wind. Aime les yeux. Un petit boulot, mais je suis.
Yes.
Ali Farka Touré. Tiens, ça inspire la gavotte à Roselyne et Marie-Hélène, aussi étonnant que ça puisse parler.
Géorgienne.
La gavotte géorgienne, voilà. Eh bien, en hommage aux familles que vous parrainez. Donc, sinon, c'était Ali Farka Touré que tu avais choisi, Roselyne. Oui. Et donc, on revient avec vous sur, effectivement, les personnes, parce qu'il y a... Il n'y a pas uniquement eux, mais les Guignols ont fait un sketch récemment qui était assez intéressant, en mettant... notre bon abbé Pierre en marionnette pour traiter de tête de con le PPDA d'office en disant sacrée tête de con, mais les gens, bon, j'essaie pas de l'imiter, hein, on est d'accord.
Surtout pas.
les gens, ça ne sont pas des statistiques, ça ne sont pas des chiffres, etc. Et effectivement, quand on dit un certain nombre de dossiers refusés, un certain nombre de dossiers acceptés, etc., des déboutés du droit d'asile, ceci, cela. Donc, qui sont donc ces personnes, puisque vous les connaissez bien, d'où viennent-ils, qu'est-ce qui les a fait venir en France, voilà, des familles de combien de personnes, enfin, la parole est à vous pour nous raconter
moi,
un peu
bien,
ça.
Je veux bien raconter ce qui s'est passé cet après-midi. Nous sommes rendus au tribunal administratif pour une famille géorgienne qui avait présenté un dossier dans le cadre de la circulaire. une famille, elle est sage-femme, lui est ingénieur, ils sont géorgiens, ils ont deux enfants de 3 ans et demi et 21 mois, je crois, le deuxième. Et leur dossier a été rejeté parce que l'an dernier, quand ils ont voulu inscrire l'aîné à l'école maternelle, et à cause des coupes sombres dans l'éducation nationale, n'est-ce pas, on accueille beaucoup plus difficilement les enfants de 2 ans à l'école maternelle. Donc il n'y avait pas de place pour ce petit garçon à l'école de son quartier. Carte scolaire oblige.
Carte scolaire.
Et puis ce ne sont pas des gens qui bénéficient facilement de dérogations à cette même carte scolaire, comme peuvent en bénéficier les gens de Sainte-Adresse pour aller à la Mailleraie, etc., etc. Bon, bref. Donc, rejet du dossier, puisque l'enfant n'était pas scolarisé, il est allé en crèche. On a fait des recours gracieux auprès du sous-préfet. Cette famille a été parrainée au conseil général par le maire de Fécamp. Et là, ils ont reçu un arrêté de reconduite à la frontière la semaine dernière. Donc, on a déposé un recours. On est passé au tribunal administratif cet après-midi. Et le jugement est mis en délibéré jusqu'à demain. Donc, on croise très fort les doigts pour que la juge casse les décisions de la préfecture. Et que cette famille ne soit pas reconduite à la frontière. De toute façon, je pense que nous prendrons les mesures nécessaires pour cacher la famille et les enfants.
Tiens, par exemple, puisque tu parles de ça, Marie-Hélène, c'est une question qui allait venir de toute façon. Quelles actions concrètes peuvent être menées, justement, pour aider en toute illégalité, des familles ? On reviendra peut-être sur les parrainages, mais là, Roselyne, tu en parlais déjà avant l'été. Cacher des familles, comment cette solidarité peut s'organiser concrètement et... Qu'est-ce que ça implique ?
Ben, c'est un petit peu difficile parce que déjà, nous, militants du réseau, ça nous est difficile de cacher des gens parce que on serait les premiers chez qui on viendrait les chercher.
C'est chez nous qui le fait.
Mais heureusement, il y a des gens qui se sont manifestés auprès du réseau comme pouvant héberger des familles. Bon, ça pose des problèmes parce que pour les enfants qui sont scolarisés, par exemple... ça pose un réel problème de pouvoir amener les enfants à l'école, avertir toute l'équipe pédagogique du danger, d'une éventuelle arrestation, etc. Mais les choses sont en place. Si cela devait se faire, ça se ferait très facilement sur le Havre, je pense.
C'est bien. Donc suffisamment de solidarité comme ça se sont manifestées pour pouvoir résister de cette façon-là. Mais ce qui veut dire donc effectivement...
Il faudrait pas qu'on en ait 10.
Ouais, voilà, d'accord. Oui,
en même temps.
Ça, oui, ça fait voir tout de suite comme les limites de la chose, mais effectivement, les gens qui vont héberger des familles ne sont pas forcément dans le quartier où les enfants, comme tu disais, sont scolarisés. Ça suppose aussi que les enseignants si ce n'est sympathisant de la cause, enfin, laissent partir les enfants avec des personnes...
Ça peut se faire parce qu'en fait on fait un papier et... mais surtout il faut que les équipes soient très en alerte par rapport à une intervention policière
et elles le sont vraiment, les alertes elles le sont vraiment en alerte, pardon. On voit beaucoup de personnel enseignant téléphoner aux travailleurs sociaux ou au collectif par exemple pour dire mais tenez-nous informés, quelle est la marche à suivre en cas de par rapport à cet enfant-là, je suis pas sûre que ses parents soient en situation régulière ou pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse si jamais la police elle vient ? Est-ce que j'ai le droit de les laisser rentrer dans la classe ? Il y a tout ce travail-là aussi d'information qui est aussi le rôle, je pense, du réseau Éducation sans frontières, que d'informer le personnel enseignant et tout à chacun de ce qu'on peut et ce qu'on doit faire. Face à ce genre de situation.
C'est ce que nous avons fait les jours de pré-rentrée. On a fait le tour des écoles pour informer justement les enseignants de ce qu'ils avaient fort le droit de faire, à savoir refuser l'entrée de la police dans leur école.
Chose qu'on ne savait pas la première fois, ça nous est arrivé.
Ben oui, voilà.
Parce que ça relève du juridique et aucun de nous n'est juriste chevronné. Donc effectivement, il a fallu qu'on se renseigne et qu'on aille voir un avocat. Tout à l'heure, on parlait des frais. On a oublié ces frais-là aussi, les frais d'avocat. Même si on a des gens aussi qui sont solidaires de la cause,
oui,
des sans-papiers,
ils
nous prennent moins cher, mais c'est quand même un travail. Et c'est pas gratuit.
Ce qui veut dire que concrètement, vous êtes combien de personnes dans le réseau Éducation sans frontières, par exemple, au Havre ? Et combien, je veux dire, de sympathisants, au sens s'il peut y avoir justement des gens qui vous aident au niveau juridique ou autre, parce que c'est complexe.
Ben, au niveau, le noyau du collectif, on est à peu près 25-30 à se retrouver dans les réunions. Donc les réunions, c'est le mercredi soir à 17h30 à la CFDT, à la Maison des syndicats. Donc la semaine prochaine, il n'y en a pas. Il y en aura une le 6 décembre et Marie-Laure nous dira tout à l'heure pourquoi.
La semaine prochaine, c'est le 6 décembre.
Oui, c'est le 6 décembre la semaine prochaine. Donc Marie-Laure nous expliquera pourquoi la semaine prochaine, on a une réunion.
Tu vas parler, Marie-Laure, crois-moi.
Tu vas parler, tu vas pas y échapper.
Non, pitié.
Et donc, et puis, bah, quand on fait des rassemblements, on se retrouve à 100 personnes. Donc c'est vrai que enfin moi j'ai une confiance dans les gens qui nous entourent et on sait bien que si on a un coup de Trafalgar, on peut compter sur quand même une centaine de personnes. Et je pense que c'est important parce que il peut arriver beaucoup de choses en même temps. Comme disait tout à l'heure Marie-Hélène, il faudrait pas qu'on nous demande des 10 places, 20 places, mais bon, je pense que s'il y a une action à faire, il y aura suffisamment de monde pour nous soutenir.
Pierre. Oui, je pense que c'est très difficile de chiffrer à partir du moment où on travaille en réseau. Parce que moi, je vois actuellement, je suis en train d'essayer de collecter des soutiens financiers et autres auprès d'amis, parfois que je n'ai pas vus depuis un certain temps. Je le fais par courrier, j'envoie le petit bon dont vous parliez tout à l'heure. Et je m'aperçois qu'on a des retours importants et parfois de gens qu'on avait perdu de vue et qui sont tout de suite... partie prenante pour reprendre du service. Bon, moi-même, pourquoi je suis revenu dans ce soutien aux sans-papiers, c'est à cause de la menace que je sens de l'extrême droite, une extrême droite qui se veut un peu plus policée que celle qu'on connaît déjà.
Sans œil de verre, tu veux dire.
Voilà, exactement. Mais ça, il y a déjà longtemps que.
Avec
plus
des petites pattes courtes.
Je nomme personne.
Extrême droite à talonnette.
Et...
qui court pas vite, mais qui tire.
Oh non, il court, attends.
Non,
il fait du vélo avec Michel Deutscher.
Mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là et qu'on pourrait certainement mobiliser beaucoup plus de gens qu'on ne se croit capable peut-être aujourd'hui de le faire.
On peut espérer qu'il y aura encore des justes, quoi. En
justement, en termes de mobilisation, on a un peu évoqué là le travail de fond du noyau dur du réseau Éducation sans frontières. Dans ce noyau, il y a aussi les parrains et les marraines. C'est quoi le rôle concrètement d'un parrain ou d'une marraine d'enfants sans papier ?
Oui, c'est un peu à ce titre que je suis venu.
C'est pour ça que je te demande.
Voilà.
La madame te demande.
Je dois dire que Marie-Hélène, qui est à ma gauche...
extrêmement radiophonique, mais il y aura des photos sur le site.
Il y aura des photos. m'a un petit peu sollicité parce qu'elle savait que, notamment en 98, j'avais parrainé une enseignante algérienne qui, maintenant, d'ailleurs, est naturalisée française, elle ne vit plus au Havre, mais j'en suis fort content. Donc, j'ai accepté volontiers, pour les raisons que j'avais commencé à expliquer. Alors, en quoi ça consiste ? Il n'y a pas le mode d'emploi du parrain, je crois. Ça consiste d'abord à rencontrer la famille, à essayer de comprendre l'origine de ses problèmes. Donc ça demande un petit travail, je dirais, de dialogue. Je sais que personnellement, j'établis une espèce de chronologie un petit peu des choses depuis le départ du pays. C'est une géorgienne et ses trois enfants que je parraine. Et ensuite, en fonction du problème, avoir quelle solution ou quel moyen d'atténuer au moins les effets négatifs d'une éventuelle décision judiciaire, on peut trouver. Bon, en ce qui me concerne, étant élu et connaissant quand même un petit peu le fonctionnement du monde politique, je me suis adressé à un certain nombre de politiques et pas seulement à gauche.
Et pas seulement vert, tu as le droit de le dire. Que...
Mais aussi vert. Je viens aujourd'hui d'ailleurs d'appeler une amie qui est députée européenne des Verts et qui, je pense, va intervenir. On essaye de trouver le meilleur niveau d'intervention, au moins pour embarrasser, je dirais. Si on ne peut pas changer la décision ou obtenir une décision favorable. Néanmoins, le fait d'impliquer un certain nombre de gens, comme les parrainages du Conseil général à ce titre, sont aussi intéressants. j'ai tendance à dire, excusez-moi, c'est une expression grossière, mais emmerder le bâton, c'est un petit peu ça. Faire en sorte que, eh ben, ils puissent plus difficilement prendre des mesures, parce que parfois, quand on, il y a eu la circulaire Sarkozy, bon, c'était une chose, mais c'est une parenthèse, la circulaire Sarkozy. Tout ce, le fait d'avoir des enfants scolarisés à l'école ne garantit pas la régularisation des sans-papiers. Donc on revient à quoi ? On revient au cas général. Et dans le cas général, la plupart de ceux qui se sont révélés être sans-papiers, c'est-à-dire les trois quarts au moins, eh bien, ils ont juste simplement signalé leur existence et ils se sont fragilisés, en fait, par rapport à la loi. Et là, il y a aussi le côté, je dirais, en tant que parrain, le côté de recours, d'aide au recours aux avocats, qui est quand même pas inintéressant. Mmh.
Il y a, alors, on peut rajouter aussi par rapport à ce rôle de parrainage, je dirais quelque chose qui est aussi de l'ordre du quotidien, c'est-à-dire un soutien, une attention particulière, une prévention, une sorte de vigie aussi, en disant attention, il y a quelqu'un qui veille sur moi, sur mes enfants. Et aussi dans la prise en charge au quotidien, parce que bah, quand on est sans papier et qu'on n'a pas d'argent, c'est pas toujours facile que de permettre le loisir ou l'accès aux vacances à ses enfants. Et on a vu des parrains et des marraines emmener des enfants de sans papier pendant les vacances. Pas juste parce que les séparer des parents à ce moment-là, ça pouvait éviter aussi certaines expulsions, mais aussi de dire que les enfants, ces enfants-là, ils ont le droit d'avoir une vie d'enfant comme les autres. Et avec des vacances, un accès aux loisirs, un accès à la détente et avoir une vie d'enfant vraiment tout à fait normale. Donc c'est, moi je pense que c'est important aussi de souligner ce point-là, de dire que le parrainage, c'est aussi ça, quoi. C'est une veille au quotidien et un accompagnement au quotidien de ces familles-là.
Et l'affection arrive très vite.
Ouais, et qu'on n'a pas besoin non plus d'avoir une connaissance juridique très détaillée, sociale, géopolitique, non. On peut aussi avoir du bon sens, de l'affection et de l'attention pour l'autre et avoir envie de lui donner un peu de temps, quoi.
Je voulais justement vous poser la question des parrainages qui ont eu lieu début juillet. On s'est retrouvés à Gonfreville avec un certain nombre de familles et de parrains. D'ailleurs, l'impression que j'en ai eue, peut-être que je me trompe, c'est que, ma foi, pas mal de gens s'étaient portés volontaires pour parrainer des familles et des enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de monde ça a fait, comment concrètement ça s'est à peu près passé? Il y a eu un discours que je voulais reproduire, je pense qu'on le mettra sur le site du maire de Gonfreville, que j'avais trouvé assez beau ce jour-là, bien, bien précis pour un élu de la République.
En fait, on s'est retrouvé avec plus de parrains que de familles à parrainer.
Il y avait environ 200 personnes dans la salle. Enfin, on compte tout le monde, hein, les parrainés et les parrains-marraines. Hein. Donc effectivement, là, comme j'ai dit tout à l'heure, on a lancé un appel et puis on a eu des gens qui sont arrivés et bien plus que ce qu'on comptait, oui, effectivement. Ce qui prouve qu'il y a quand même de la solidarité, ça existe encore. Contrairement à ce que certains pensent.
Oui, non, mais c'est important. C'est vrai que je disais en présentation, ce que vous faites, toute cette solidarité qui se manifeste, permet justement de se remonter le moral, parce que c'est vrai que de temps en temps, on a l'impression que, voilà, on baisse la tête, on prend tellement de coups par-ci, par-là. Bon, on va pas énumérer, hélas, depuis ils ont 3 ans, toutes les mesures rétorsives qui.
Et puis c'est extrêmement dur. Enfin, je pense que évidemment, c'est, il y a pas de commune mesure. Dans la douleur, quand les gens sont expulsés, entre ceux qui sont expulsés et nous. Mais c'est vrai que nous qui voyons ça, pour nous, c'est extrêmement difficile moralement, quoi. Bon, alors évidemment, ça l'est beaucoup plus pour la famille qui va partir. Hein. Mais ça, ça fait partie aussi de ce qu'on fait avec les gens. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, des relations qu'on pouvait avoir avec les gens. Effectivement, il y a une relation affective qui évolue et que quand il y a quelque chose de dramatique qui se passe, on est pris plein fouet en même temps qu'eux. Et c'est aussi douloureux pour nous. Et ça nous remet, comme tu dis, bon, à chaque fois, on se reprend des baffes un peu plus. Et on a l'impression qu'on va ressortir la tête de l'eau. Et on retombe et on ressort. Et c'est quotidiennement. Bon, bah, là, on va attendre demain, comme disait Marie-Hélène. On espère, on croise les doigts, on espère que pour cette famille, il y aura une bonne issue. Il y a parfois des issues. Il y a 2 lycéens qui ont été régularisés à Lyon avant-hier. Bon, grâce à la mobilisation de lycéens, 1000 lycéens devant le TA. Bon, ben voilà. Alors, je veux dire, c'est ça aussi, c'est la force qu'on y met pour défendre ses convictions.
Yes. Est-ce que les familles, c'est des conditions extrêmement difficiles et des pays d'origine très différents. Alors du coup, j'imagine que c'est pas très aisé, mais est-ce que les familles arrivent à communiquer entre elles, à échanger aussi leurs différentes expériences?
Ben disons, déjà, il y a une solidarité énorme entre les familles sans papier, hein, parce que bon, il y a des familles, et puis il y a les majeurs isolés qu'on rencontre beaucoup, nous, à la Ligue des droits de l'homme, qui sont souvent hébergés chez l'un, chez l'autre, nourris par des gens qui n'ont déjà pas grand chose pour vivre.
Alors, si on peut rappeler quand même quelque chose par rapport à ça, par rapport aux majeurs isolés, c'est que on peut, en tant que mineur, déjà être sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et on peut, quand on est majeur, bénéficier aussi d'un contrat jeune majeur au titre de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à 21 ans. Et alors ça, j'invite toutes les personnes qui ont la possibilité d'envoyer ces jeunes voir l'assistante sociale de quartier et de se dépêcher de faire ce genre de dossier, parce que ça permet aussi aux jeunes de rester jusqu'à l'âge de 21 ans de manière légale et d'avoir aussi l'assurance que sa scolarité va être prise en charge, que son hébergement va être pris en charge, que tous les frais qui sont inhérents à sa scolarité vont être pris en charge et qu'il ne va pas être à la charge de quelqu'un d'autre qui n'a déjà pas grand-chose. Et c'est aussi une protection puisqu'il est sous la protection de l'aide sociale à l'enfance.
Merci du renseignement.
Et on va écouter le morceau suivant et on continue à parler avec vous du combat que vous menez aux côtés des familles et des majeurs sans papier.
Bernau Ultima, Dadina Tuka, Hey Ultima, Dadina Tuka.
One, two, three, four, occupation, no more. Donc nous sommes toujours avec RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Et puis en fait, on a commencé à l'aborder tout à l'heure, et puis le sujet est vaste, on est passé à beaucoup d'autres choses, et notamment les personnes concrètement. Mais quand même, cet été, voilà, il y avait cette question des dossiers, ce fameux médiateur qu'on évoquait lui aussi. Je crois que vous avez pas mal de choses à nous dire là-dessus, les filles et les garçons.
Pierre a une anecdote par rapport au médiateur, alors, parce qu'il lui a écrit.
Pierre a écrit à Arnaud Klarsfeld, donc.
Oui, j'ai écrit une belle lettre, et j'ai même obtenu une réponse, ce qui est quand même formidable. Il m'a dit combien il regrettait de ne pouvoir accéder à ma demande de bienveillance à l'égard de ma filleule, et il a incité à user de toutes les voies de recours possibles. L'anecdote va faire que Marie-Hélène me dise laquelle, parce que il y en a sans doute plusieurs.
T'as un trou de mémoire.
Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai entendu Arnaud Klarsfeld à une émission de télévision expliquer combien finalement cette circulaire Sarkozy, c'était un piège pour les sans-papiers qui justement c'était déclaré et révélé qu'ils en voulaient au réseau Éducation Sans Frontières d'avoir été quelque part le complice de ce
forfait. Ah, une information qui nous a échappé,
dis donc. De cette classification des sans-papiers.
Incroyable, très fort, très fort. Excusez-moi, avant de vous repasser la parole, je suis désolée, Roselyne, on ne t'a pas laissé présenter le morceau que nous venons d'écouter, et en plus, derrière lequel tu voulais faire une dédicace. Alors...
Ah oui, je voulais faire une dédicace parce que cette chanson-là, j'ai choisi parce qu'il y a une toute petite histoire mignonne. Il y en a pour 3 minutes, même pas. Donc c'était Diaby Traoré, un Africain qui chante en poulard, en alpoulard. Et je connais bien la Mauritanie et je connais un peu le alpoulard. Et je vis dans une famille quand je pars là-bas. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Moussa, qui est le fils d'un monsieur qui habite en France. Et quand je veux lui parler ou quand je veux le laver le soir, il part en courant, il se bouche les oreilles et il dit toujours « Miwawa ». Parce que Miwawa, ça veut dire je n'entends pas, je ne comprends pas.
Ah, et c'est ça que chantait voilà. Diaby Traoré. D'accord, Miwawa.
Donc voilà, c'était pour Moussa, un petit clin d'œil à Moussa.
Excellent. Bon, beaucoup moins drôle, effectivement, de revenir
de revenir sur le sujet qui nous préoccupe.
Voilà. Donc, qui reprend après la réponse qu'avait eue Pierre de Klarsfeld.
Je pensais que la réponse qu'il t'avait adressée ne correspondait pas à ta filleule. Oui. Voilà, c'est ça.
La première réponse.
Parce que la première réponse, il a répondu, mais il ne s'agissait pas du tout de la filleule de Pierre. C'était quelqu'un d'autre, c'était un autre dossier.
Ah oui, oh ben, ça prouve que
c'est... Non, c'est pour montrer... Voilà, c'est ça, c'est un homme consciencieux. Hein.
On avait tous remarqué qu'il était très clairvoyant dans ses propos.
Absolument, oui. D'ailleurs, on se demande comment, étant avocat, il peut s'exprimer aussi mal, ce pauvre homme. À se demander combien il a payé son diplôme d'avocat, d'ailleurs.
Oui,
moi,
alors,
je pose des questions à ce sujet-là.
Tiens, puisque tu me tends la perche, enfin, j'ai une hypothèse, j'en suis pas sûre, parce que François et moi-même avions déjà remarqué cet été que cet homme-là s'exprimait, mais alors d'une manière déplorable.
C'est, mais à chier, c'est vraiment...
Mais alors, j'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Moi, j'ai l'impression que c'est comme Nicolas Sarkozy, je pense que c'est de là qu'ils d'ailleurs tous les deux ont une formation d'avocat.
Oui,
ils font du vélo loin, ensemble. Bien que ça soit des crétins d'être inintelligents et incultes, je pense qu'ils font exprès d'employer ce qu'ils croient être la langue du peuple. Alors, c'est une hypothèse. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Qu'en bons démagogues qu'ils sont, parler avec des mots, tu vois, parfois un peu vulgos, comme ça. Bon, voilà,
ils
hypothèse.
Ils essayent de se mettre à côté du peuple.
Ça, c'est la mauvaise influence de Villepin.
Mais en même temps, sans je pense doute. Que Arnaud Klarsfeld a, entre guillemets, peut-être la chance d'avoir un père. Et que sans son père, quoi qu'on en pense, il ne serait peut-être pas arrivé là où il était.
Comme quoi la chasse, même aux nazis,
voilà.
Ça mène à tout.
Comme quoi la chasse aux nazis, ça mène à tout, effectivement.
Oui, bah, ça mène à ce qu'il soit aussi un soldat d'occupation israélienne. Mais ça,
exactement,
on en parlera peut-être
plus
tard.
C'est un fil conducteur qui n'est pas inintéressant. Surtout quand dans la circulaire, il y a quand même une phrase qui précise bien que les personnes ne doivent plus avoir d'attache au pays.
Et que les enfants ne doivent plus parler la langue du pays aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier d'une protection en France et de la possibilité de vivre sur un terrain, sur une terre, on nous demande de renier ce dont on vient.
Surtout moi, ça que fait lui... longtemps que j'arrêtais de parler le breton, tu sais.
T'as bien fait. Que... Surtout que lui, Arnaud Klarsfeld, quand même, il est israélien. Il parle hébreu. Et en plus, il a des attaches avec son pays.
Oui, ça, on peut le dire.
Donc, il était quand même mal placé pour formuler ce genre de choses.
Non, on rigole, mais
ce qui est par ailleurs assez ubuesque pour ceux qui ont rencontré des demandeurs d'asile ivoiriens qui s'expriment dans un français extrêmement châtié, parfois même mille fois plus ampoulé que ce qu'un français dit de souche pourrait utiliser.
Et qui, en l'occurrence, sont très doués en braille.
Et puis, quand on sent...
Désolé.
Mais là, il est un peu tôt quand même pour pouvoir avoir ce genre de... blague.
Marie-Laure, elle avait pas saisi.
Marie-Laure, elle est concentrée.
Il n'y a pas d'heure pour les blagues. Non, on rigole. Bah, forcément, c'est comme dans toutes les choses difficiles. Hein, quand on est confronté à des choses vraiment déchirantes, il faut bien quand même rigoler.
Oui, ça ne fait pas de mal.
Ah, ouais, ça aide.
Mais c'est vrai qu'il faut, comme disait tout à l'heure Pierre, il ne faut pas détacher toutes ces situations et toutes ces personnes d'une extrême droite policée. Hein. Ils sont bien du même clan, ils font bien partie de la même famille. Et nous, on n'en fait pas partie, on n'en fera jamais partie. Et on en est très fiers. Et c'est ce qui est grave, c'est ça. C'est-à-dire que cette capacité qu'ils ont à toujours accuser l'autre, à toujours trouver des boucs émissaires pour effectivement placer leur politique répressive face à une population qui, bien souvent, est extrêmement démunie.
Pour en revenir aux actes, parce qu'effectivement, on voit bien, malheureusement, les enjeux politiques graves qu'il y a derrière tout ça. Pour en venir aux actes, donc concrètement, je ne sais pas si vous avez les chiffres, s'ils ne sont pas extrêmement précis, on vous en tiendra par rigueur, on les mettra sur le site. Mais voilà, à un moment donné, il a été dit que tant de personnes étaient effectivement régularisées. Or, il me semble que Réseau Éducation Sans Frontières, parmi d'autres, a souligné que, curieusement, ça correspondait aux chiffres qui avaient déjà été avancés par Nicolas Sarkozy d'une part et par Arnaud Klarsfeld aussi. On régularisera tant de personnes. Et c'est curieux, en effet, c'est ça. Alors, quel est le...
Ben, de toute façon, bon, ils avaient prévu 20%. Après, ils ont dit, oh, ben non, on va faire 33. Et puis, au bout du compte, c'était bien 20%. Effectivement, tu as raison, les comptes étaient arrêtés avant que tous les dossiers aient été consultés. C'est-à-dire qu'ils ont régularisé 6924 personnes. C'est important, pas famille. Ne pas confondre.
Oui,
c'est extrêmement important de préciser la chose, parce que c'est quand même pas la même mesure. Et donc, je pense que tout était calculé d'avance, hein. C'était classé
donc c'est
prévu.
6 000 personnes sur combien de...
Plus de 30 000 dossiers.
Plus de 30 000 dossiers. Oui.
Et puis en plus, bon, c'est vrai qu'au Havre, je crois qu'on a dû avoir 11 rejets fermes. Mais par contre, dans les personnes dont le dossier est favorable, tant qu'ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de récépissé. Et tant qu'ils n'ont pas ce récépissé, pour nous, ils sont quand même encore un petit peu sur la balance, quoi.
Ouais, bien sûr.
Parce que s'ils ne produisent pas leur passeport, d'ici quel délai, on ne le sait pas encore non plus. Qu'adviendra-t-il ? Il faut signaler aussi que la carte de séjour qu'on remet aux gens qui ont leur passeport est une carte d'un an.
Qui ne donne pas droit
au RMI.
Voilà,
qui ne donne pas droit au RMI d'une part.
Et
surtout, voilà, aux prestations familiales. Et surtout, ce que je crains, moi, c'est qu'au bout d'un an, la sous-préfecture reprenne tout ça. Et puis, hop, refasse un tri. Vous, qu'est-ce que vous avez fait cette année ? Est-ce que vous avez suivi des cours d'alphabétisation ? Avez-vous fait une formation ? Avez-vous trouvé du travail ? Avez-vous un logement ? Ou est-ce que vous êtes toujours dépendant de telle ou telle association ? Et hop, on va retrier. Enfin, selon le résultat des élections, je crains le pire.
Oui, justement, bah écoute, j'osais pas trop vous poser la question et peut-être qu'on fera court là-dessus. Et puis, voilà, on ne lit pas dans le marc de café, mais si toutefois cette droite qui vire de plus en plus à l'extrême était remplacée par une gauche qui, elle-même, selon moi, va vers la droite, enfin, comme tout se déplace sur l'échiquier politique, est-ce qu'on peut quand même, est-ce qu'il y a des assurances, est-ce qu'il y a des promesses,
Moi, je trouve qu'on les voit énormément à la télévision. Hein. Ils sont déjà en campagne électorale. Ils nous bassinent la tête depuis un moment déjà. J'ai pas entendu parler de régularisation de sans-papiers ou de quoi que ce soit. Hein. Ils parlent beaucoup d'eux-mêmes. Ils s'aiment énormément. Mais les autres, ils n'en parlent pas beaucoup.
Ça. C'est-à-dire que dans les projets politiques, il n'y a pas spécialement...
Ça n'a pas l'air d'être mis en avant.
Non,
hein,
non, parce que c'est le sujet qui fâche quand même. Hein.
Ça dérange plutôt qu'autre chose. Et on passerait plutôt pour le mauvais élève si on annonçait ce genre de choses.
Tout à fait.
Voilà, donc je pense que bon, c'est peut-être au-delà de la stratégie. Je ne sais pas s'il y a un projet dans ce sens, que ce soit à gauche ou à droite.
Et est-ce que c'est quelque chose que...
À droite, on sait. Oui,
à droite, on sait déjà.
mais à gauche, on a déjà...
On n'a aucune
assurance qu'il y ait quoi que ce
est-ce
soit.
Est-ce que c'est quelque chose que vous faites en tant que réseau? Vous trouvez que ça n'est pas votre rôle d'interpeller justement, par exemple, les différents candidats à l'élection présidentielle, de leur soumettre les dossiers, de leur présenter quelque chose en disant est-ce que vous allez à un moment donné vous situer par rapport à ça? Je ne sais pas du tout. Est-ce que
oui,
c'est votre projet?
Oui, mais bon.
Été proposé dans une réunion par une copine qui était là, que justement au moment des élections, aller dans les réunions politiques, mm-hmm. et puis leur demander leur position, ouais. Par rapport aux sans-papiers et qu'est-ce qu'ils comptent faire et présenter.
Mm. Alors, effectivement, ça semble important. Après, je ne sais pas selon les associations, bon, sur différents points, comme par exemple l'écologie qui voilà, ramène un peu au même sujet, parce que c'est vrai que franchement, si on ne discute pas de la manière dont la terre, l'eau, la mer, les espèces animales sont maltraitées en ce moment, on sait que ça va créer d'encore plus grands dommages pour toutes les populations humaines aussi. Mais là, bon, il suffit que Nicolas Hulot et... Bon, d'un côté, sans rentrer là-dedans, tant mieux qu'il le fasse. Oblige un petit peu les gens à se situer. Bon, il parle. Voilà, peut-être que vous n'avez pas le même poids médiatique en même temps pour obliger les gens à se situer sur la question des sans-papiers.
On fait pas du LM.
Ah, c'est ça.
Non. Et puis, Nicolas Hulot, et que c'est 30 000 euros par...
Moi ?
Ouais, je crois.
Je crois, il me semble.
Ouais, il me semble que ça va, il touche pas mal.
Il touche pas mal.
Il touche pas mal et pas forcément d'associations écologiques. Sûrement pas d'ailleurs d'associations écologiques, mais par contre de grands groupes, oui.
Pollueurs.
Ron Poulenc.
Peut-être, oui, un petit peu.
Oui, etc.
Il paraît.
Non, mais bon.
Bon, donc on n'est pas là pour parler de Nicolas Hulot, c'est encore un sujet qui fâche.
On évoque, on ne balance pas. Ludo.
Oui, non, j'avais une question, puisqu'on parlait de manière générale de restriction de l'accès au séjour et aux prestations. Comme vous accompagnez les personnes au quotidien dans leur démarche, quelle qu'elle soit, vous ne devez pas être sans savoir que depuis peu, les CPAM sur Le Havre, apparemment, exigent une photo d'identité pour les demandes d'aide médicale État, les renouvellements d'aide médicale État. Est-ce que vous avez eu des personnes pour lesquelles ça présente un frein, vraiment, qui ne veulent pas donner une photo, qui de fait se retrouverait démunie de couverture sociale?
Non, moi j'ai justement récemment, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, accompagné un Sierra Leonais dans une situation ubuesque. Et non, lui, c'est effectivement, on lui a demandé. Non, on lui a pas demandé tout de suite la photo. En fait, il ne l'applique pas à la caisse où je suis allée près de Côté.
Ça dépend lesquelles, en fait. Hein.
Voilà.
Parce que pour certaines caisses, l'information est tombée la semaine dernière ou la semaine précédente.
L'information est tombée, mais pas encore appliquée, du moins à celle de la ZAC Côté. Je file l'adresse.
Je te remercie, je la connais.
on la connaît. Enfin, cette histoire de carte d'identité, ça va arriver. Enfin, c'est pas que ça va arriver.
Pour l'instant, de photos. Hein. On n'en est pas aux empreintes, quoi que ce soit.
Non, mais ça va arriver aussi sur l'histoire de la carte vitale, où tout à chacun, en fait, ils ont demandé à ce que ce soit mis en place et voté, que la carte vitale soit une carte avec laquelle il y a une photo. Donc, évidemment, quitte à tester, au lieu de tester sur la population comme nous, autant tester sur une population malléable et avec qui on peut faire tout ce qu'on veut.
Excusez-moi, est-ce que vous pensez que nous avons fait le tour de ce point pour l'instant et que nous pourrions passer la parole à Pascal pour sa seconde chronique? Après, bien sûr, un morceau de musique que Roselyne va nous annoncer avant, du coup, comme ça Pascal pourra poser. Alors après... Traoré, je sais plus.
Madeleine Pérou.
He made me laugh. He made me cry. He smoked just stogies in bed. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely before. I asked the boy for a few kind words. He gave me a novel instead. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely before. It's fine, it's okay. It was wrong, either way. I just wanted to say, it isn't much fun when you're drinking for one. He got drunk, he fell down. He threw a few of my things around. But I'm alright, I'm alright. I've been lonely
Pascal, c'est à toi.
C'est à moi. Donc, on va parler ce soir de d'une réédition en fait en super album, un intégral en fait de Black Hole de Charles Burns, qui vient de reparaître chez Delcourt. Effectivement, ça coûte cher, ça coûte 29,90€, mais c'est une somme de travail quand même de plus de 390 pages, je crois, si je me souviens bien.
C'est un pavé en tout cas. C'est nous l'avons entre les mains. Il, est, il a l'air assez beau comme ça.
C'est noir très, très et rouge. Alors, et c'est bientôt Noël.
Voilà, tout à fait. Donc, il faut bien se dire qu'il faut faire du petit plaisir. Sauf que, bon, effectivement, le cadeau est un peu empoisonné. Enfin, sur les amateurs de contes de Noël, il faut le dire, c'est quand même assez grave.
Moi, j'aimerais bien avoir ça dans mes petits chaussons.
Voilà, mais j'imagine. Bah, comme je pense.
Tu choisis combien ?
Letty qui aime bien les petits chaussons actuellement.
C'est menu du 39.
Ça rentre pas.
Allons-y, allons-y.
Allons-y, continuons. Donc, un petit aperçu sur la carrière de Charles Burns. Il est né en septembre 1955 à Washington. Passionné très tôt par toutes les formes d'expression artistique, Charles Burns fréquente l'Evergreen College, une école d'art plastique de l'État de Washington. Il y côtoie Matt Groening.
Groening, le papa des Simpsons.
Et ben voilà, tout à fait. Exactement.
Et de Futurama.
Voilà. Ça commence bien pour lui. Qui s'occupe à l'époque d'une galerie d'art et d'un journal de campus. Donc, tout en bon faisant les petits strips qui qualifient lui-même déjà d'étranges à l'époque, il s'essaye un court temps à la photographie expérimentale. Il conçoit un Curse of the Catwoman, un roman photo d'une vingtaine de pages.
Tu l'as ?
Mais non, je l'ai pas, parce que visiblement, bon, c'est pas perdu en France, malheureusement, forcément. Et donc. Pendant ce temps-là, ses travaux, forcément, sont refusés par tous les éditeurs de comics de l'époque, qui sont quand même très, n'est-ce pas, très comics américains, oui. Super-héros, etc.
Ils n'en ont pas voulu chez Marvel.
Non, même pas. Mais du coup, il fait la rencontre d'Art Spiegelman, le papa de Moss, que vous connaissez, je pense, tous,
bien sûr,
la célèbre BD sur effectivement l'Holocauste avec la petite souris, etc. Donc, il fait connaissance d'Art Spiegelman et de sa femme, qui faisait à l'époque.
Pierre, il connaît même pas Art Spiegelman.
Non, c'est pas grave, je te montrerai. Voilà. Je dirais bien voir ma petite souris chez moi, tu vois. Là, tu seras déçu parce que franchement, c'est pas drôle du tout.
Non, c'est vrai.
Et donc, il faisait un magazine à l'époque, Art Spiegelman et sa femme, qui s'appelle Raw, R-A-W, qui était un magazine en fait très BD indépendante. Et pendant un certain temps, Charles Burns a travaillé pour eux, donc il multiplie les strips, les histoires courtes et les illustrations. En 1983, il figure au sommaire de Heavy Metal, le pendant de Metal Hurlant en France, mais en Amérique. Avec El Borba. El Borba, c'est un personnage assez curieux parce que bon, ça met en scène une sorte de catcheur mexicain. Ça te rappelle quelque chose?
Il est temps de réhabiliter le catcheur mexicain.
Bah, il me semble. Hein. Ça vient tout doucement.
Et le poissoteur.
Bientôt, oui. Au Havre.
Et le poissoteur, dit Pierre.
Mais les aventures des catcheurs mexicains sont bondissantes. Pas sans le savoir.
Disons que les poissoteurs, c'était aussi dans un comic strip, mais. Il y a quelques années. Bon, allons.
Bah, c'est dans Pif aussi. Hein.
Bah, c'est ça que je voulais dire. Bah, oui. C'est un genre de comic strip.
C'est ça, mais comic strip.
Non.
Un comic strip pour enfants.
Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. En fait, bon, c'est effectivement.
Pif faisait des strips dans sa jeunesse.
Ouais.
Ouais.
T'avais pas vu?
Bah, il était rarement habillé. Bon,
bah, on voyait souvent quand même sa queue, non, je pense.
Ouh.
Et donc, El Borba, c'est un espèce de catcheur mexicain. Qui vit dans une Amérique vraiment de cauchemar, abominable.
Bah, Amérique cauchemar.
Oui, ça peut dire aussi.
C'est souvent. Pas nouveau.
Non.
C'est un pléonasme.
Donc, de 1984 à 1986, il s'installe en Italie, ce qui lui permet d'être connu plutôt en Europe pour son boulot. Il publie effectivement chez Zumina et Associés, Albin Michel, Delcourt et Magic Strip. Il continue à faire l'illustration, notamment pour les pochettes de disques.
Ah bon.
Souvenez-vous, Brick by Brick, ça vous dit quelque chose?
Ouais, Candy. Iggy Pop.
Donc il a fait deux pochettes pour Iggy Pop, quand même, les enfants. Non, ça vous dit, ils connaissent pas.
Que les tiques
a réagi.
Iggy Pop, alors là, c'est
bah, oui, attendez. En plus, cet album, il est magnifique d'ailleurs, Dom.
Bah, oui.
Il l'a ici, je crois. Il y a un magnifique morceau d'Iggy Pop avec la chanteuse des B-52s. Un jour, je vous la chanterai.
Tout à fait.
D'accord.
D'accord, on sera nous ensemble alors. Donc à partir de 1994, il se lance dans la production de son œuvre maîtresse, Black Hole. Et là, il s'impose vraiment comme un chef de file de la BD américaine indépendante. Alors Black Hole, c'est un peu particulier. Il faut dire que déjà, ce qu'il avait fait était un peu tordu au départ. Et là, bon, ça se passe à Seattle dans les années 70. Des adolescents sont victimes d'une nouvelle maladie qui est appelée... la peste ado ou la crève qui les transporte physiquement. C'est-à-dire que bon, ils ont parfois une nève qui apparaît sur la gorge, ils ont parfois la peau qui se détache, etc. Donc c'est très bizarre. Du coup, bah, les ados se réfugient dans les bois où ils essayent de survivre.
C'est logique.
Oui, c'est logique. Hein.
Et tu sais ce qu'il y a dans les bois, Pascal?
Moi, je le sais, mais je le dirai pas. Forcément. Donc ils survivent, une espèce de survie dans les tentes, le jour, des espèces de baraques minables, et ils sortent la nuit pour chercher à manger. Sauf que forcément ils ont peur, parce que comme tu disais Ludo, dans les bois, tout n'est pas tout simple non plus, parfois il y a des choses un peu bizarres.
Non, des fois il y a des scouts en train de pourrir, c'est verdâtre et ça chouette.
Voilà, voilà. On va pas tout dévoiler non plus. Ce qui est intéressant, c'est que tout le monde disait qu'il y avait une parabole sur le sida, etc. Sauf que Burns s'en défend complètement. Ouais. Il dit plutôt que lui, c'est une. En fait, c'est une histoire d'une bande d'adolescents partagée entre l'ennui, la drogue, l'alcool, les rapports sexuels, qui sont hyper importants, forcément, dans l'album, puisque c'est quand même basé essentiellement là-dessus. C'est pas pour rien que ça s'appelle Black Hole.
Ah ouais, franchement, j'aurais pas osé.
Ah si, non, mais c'est ça aussi, quoi. Non, c'est. C'est ouais, en fait
c'est
Black
juste
Hole,
parce
c'est
que
le.
C'est en noir et blanc,
voilà.
Hein.
Donc c'est essentiellement basé là-dessus et le mal-être surtout des adolescents. Donc en fait c'est la face cachée des Amériques, de l'Amérique des années 70 quand même, parce que l'Amérique des années 70 ou même l'Amérique en général, on a plutôt une face lisse des choses, et là il décrit en fait un milieu des ados qui est quand même franchement assez abominable. Et en même temps, toucher la seule façon en fait que les ados ont de sortir un peu du lycée, de machin truc mûche, c'est d'accomplir des actes sexuels et de trapper effectivement cette maladie.
Carrément. Machin truc mûche.
C'est bien ça. Je pense que chaque fois qu'on sait pas trop quoi
dire,
on aura qu'à dire
machin
ça.
Non mais truc mûche, c'est d'ailleurs bon l'aspect lisse des choses et l'aspect bon très régenté de l'Amérique et
on fait
et
les
voilà,
andouilles
quoi.
Mais on avait compris Pascal quand même.
Vous faites bien les andouilles, ça me rassure.
Ça, on fait tout. Bah bien.
Ça change des poufs hein.
Mais en fait l'album par lui-même effectivement il référence aussi aux BD américaines très culte des années 30, 40, 50, Tales from the Crypt, etc. C'est un mélange de ça, plus, effectivement...
Shocking suspense stories.
Oui, voilà, des choses comme ça, ouais. Plus les trucs pour ados, les films pour ados, comme tu disais tout à l'heure, ça peut
arrête
être Saw
3... Arrête de regarder Ludo en disant films pour ados.
Non, mais ça peut être Saw 3, effectivement, ou les films horrifiques, Saw 3, etc.
C'est vrai, c'est un grand
alors,
garçon.
Alors dis-moi, est-ce que c'est une référence aussi au trou noir qu'avait produit Disney au début des années 80?
Pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais c'est une... Non, c'est très bien, un trou noir. Mais c'est pas grave. Je te dirai
ça. Tu vois rien.
Bah, c'est normal.
Si... Le disque, le 45 tours du trou noir avait bercé ma jeunesse. La voix de Jean Topard, à qui on ne rendra jamais assez hommage...
Un 45 tours, c'est plutôt un trou au milieu d'un truc normal.
Tout court. Bon.
On n'en sort jamais.
Voilà, absolument.
Enfin bref, de toute façon, l'album, c'est aussi effectivement un condensé des pulps américains de l'époque. De aussi, on peut rejoindre les cinéastes tels que Cronenberg et Lynch, qui font intervenir en fait l'insolite dans le quotidien pour vraiment décrire certaines choses au niveau de la société. Qui sont très intéressantes. En fait, c'est un album culte parce que bon, on l'attendait depuis très longtemps, non pas en France, on l'a vu déjà par chapitre en fait dans la même édition, mais en moins belle édition. C'est-à-dire que le rendu au niveau du noir et blanc était beaucoup moins beau parce que le papier était beaucoup moins beau. Il faut dire que le noir et blanc est vraiment magnifique au milieu du dessin.
Je confirme.
Voilà. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour les amateurs de BD. Et de choses curieuses et intéressantes. Il faut signaler aussi qu'apparemment il y aura une adaptation cinéma. Visiblement, c'est Alexandre Aja qui serait le réalisateur aux dernières nouvelles. Oui, surprenant, le fils d'Alexandre
Arcadie. Et si vous dérangez, Gav, vous nous le dites.
Et qui a fait les collines et les îles il n'y a pas très longtemps.
Vous avez plus de micro, Roselyne et Letty, pas la peine de parler comme vous chuchotez pendant la chronique de Pascal. Je demande à François de vous couper. Donc comme ça, c'est fait.
Et donc, ce serait sur un scénario, une adaptation de Roger Avary. Bon, là, je suis un peu inquiet. Mais aussi...
moi pas.
Quelque part. Ah si, parce que bon, c'est pas non plus exceptionnel. Mais aussi de Neil Gaiman. Ils seraient tous les deux à le faire. Bon.
Je vous rappelle que nos invités sont pas encore partis, que la chronique de Ludo
n'est pas commencée.
Le cinéma bis fera forcément. Entre une demi-heure et trois quarts d'heure, donc il va peut-être falloir...
Et bon, on va finir comme ça, voilà.
Mais Pascal est exhaustif sur son sujet, et il mérite des louanges à cette
pense.
Absolument.
Et j'attends très très fort cette adaptation de Black Hole.
Voilà. Donc, vous pouvez vous procurer l'album dans toutes les bonnes librairies, n'est-ce pas? Black Hole, l'intégrale, un gros volume de 390 pages à peu près, mais passionnant jusqu'au bout. Qui est paru chez Delcourt à 29,90€. Et allez-y, plongez-vous dans le trou noir si vous voulez.
Oh
hey.
Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin, l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire revoir un latte cohère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Henri Salvador, ce qui nous permet de féliciter Roselyne pour sa, son extrême comment dire, tolérance et esprit de largesse, puisque jolie chanson certes, amie de Bernadette Chirac néanmoins. Ouais. Incroyable, Roselyne.
Oui, alors je c'est vrai que je l'ai choisi pour une raison tout à fait particulière. Alors je suis pas trop dédicace en principe, hein, c'est pas mon truc, ma tasse de thé du tout. Mais comme tu l'as dit, j'étais venue au mois de juin et puis j'avais trouvé que c'était une ambiance vraiment conviviale, vraiment très sympa. Donc d'abord, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Parce que on n'a pas souvent la parole. La presse, on a beaucoup de mal à relayer toutes nos informations. Donc, merci à vous. Et si j'ai choisi Henri Salvador, je reviens au contexte convivial et presque familial. Et simplement, c'était une dédicace pour mon père, qui était quelqu'un de battant. Si je dis que c'était quelqu'un, c'est qu'effectivement, il n'est plus là. Et donc, ce soir, j'avais envie de faire un petit coucou comme ça, parce que il aurait été fort heureux de nous entendre aujourd'hui se battre face à cette politique dure pour même le lambda moyen de la France.
Bah écoute, Roselyne, d'autant plus, alors merci pour le choix de ce morceau.
Alors c'est vrai que j'ai appris après qu'effectivement, c'était pas...
Ben non, mais
bon, ça reste quand même un chanteur.
C'est voilà. Un chanteur. C'est ce qu'on lui demande. Il chante. Voilà.
Et on lui demande de ne pas dire des conneries.
Encore voilà. Maintenant, il pourrait s'arrêter.
Ouais, enfin, il y en a des jeunes qui chantent, qui feraient mieux bon, de se taire.
Vous dites ça, mais il nous enterrera tous. Hein.
Parti comme il est, je le crains.
Quoi qu'il en soit, avant de passer la parole, probablement, en tout cas, j'ose l'espérer, enfin à Marie-Laure. Pour parler des projets de Réseau Éducation Sans Frontières, en tout cas au moins au Havre, et d'un concert prochain, tu voulais, Marie-Hélène, nous parler d'une famille
africaine. Oui, on parlait justement de cas particuliers pour ne pas mettre tous les sans-papiers dans le même sac. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de cas différents. Et dans les rejets que nous avons eus au sein du collectif, il y a le cas de cette femme sierra-léonaise qui est parrainée, je crois, par Jean-Paul Lecoq, maire de Gonfreville, et qui a dû être reparrainée, je pense, au Conseil Général. En fait, elle a fui son pays, Sierra Leone, pour éviter à sa petite fille, qui doit avoir 4 ans et demi ou 5 ans maintenant, d'être excisée. Parce qu'en Sierra Leone, 90% de la population féminine est excisée automatiquement. Que lors de la dernière campagne présidentielle, la femme du président a sponsorisé 1500 excisions pour gagner des voix, pour faire élire son mari, ce qui est quand même pas peu.
Ah non, c'est insensé, on en apprend vraiment.
C'est hallucinant.
Tous les jours, des choses épouvantables. Hein.
Et malgré ça, eh bien, on a rejeté son dossier parce que comme le papa était resté au pays, il y avait des liens. avec la Sierra Leone, qu'il serait dommage de détruire.
Bien sûr.
Même pour cette pauvre gamine.
Au prix de la destruction, voilà, des enfants. Donc, mais alors, le père, donc, était apparemment solidaire de la maman contre l'excision. Et lui-même, oui, qu'est-ce qu'il devient? Il
alors, le père a réussi à fuir la Sierra Leone récemment et vient de déposer un dossier auprès de l'OFPRA. Parce qu'en fait, comme il refusait l'excision pour sa fille, il a été banni du clan. Il a été déchu de ses droits paternels. Et donc, si la gamine, maintenant, qui est encore recherchée par les grands-parents, revient au pays, ils n'ont plus rien à dire. Ils ne peuvent, ouais, pas s'opposer, mmh, à l'excision.
Ouais, donc, effectivement, voilà, on peut souhaiter, en tout cas, lutter... Et... de toutes nos forces, de toutes vos forces. Je ne sais pas ce qu'on peut faire dans ce cas-là pour soutenir cette famille, mais bon.
C'est toute la contradiction de notre société, parce que dans l'éducation nationale, les médecins scolaires comme les infirmières sont appelés à être vigilants s'ils entendent parler de ce type de situation, alors que là, on est en plein dans la situation et qu'ils ne sont pas régularisés.
Oui, mais attendez, Madame Mabi, pas de ça chez nous. Mais ils font ce qu'ils veulent chez eux,
exactement,
ces gens-là. Hein. C'est quand
tout
même
à fait
différent,
ma brave,
surtout quand ça concerne les droits des filles. Hein. Voilà. Marie-Laure, là, franchement, tu ne peux plus te
à
planquer.
Toi.
Hein.
À toi, Marie-Laure.
Je ne peux plus échapper au micro. Alors, voilà, je me jette à l'eau.
Eh ben,
ça arrive, c'est super.
Pendant... Il dit, non, c'est pas à l'eau, c'est au vin.
C'est pas à l'eau, hein, c'est
va,
au pinard.
Ça va.
Il y en a partout.
Allons, allons. Nos auditeurs ne le savaient pas jusqu'à présent.
Alors, chers amis... Donc, je voudrais annoncer le concert de soutien à Réseau Éducation Sans Frontières, qui aura lieu le mardi 12 décembre. C'est le jour de l'anniversaire de ma grande sœur. Et bon, voilà, c'est comme ça.
Hein. C'est sympa.
Ça lui fait un bel anniversaire.
Donc, c'est un concert, ouais, au soutien de
ma grande sœur. Oui, ça peut être ça aussi.
Donc, en ce qui concerne, on le rappelle pour nos audinautes qui nous écoutent dans toute la France et voir le monde entier... C'est le réseau d'éducation sans frontières du Havre et ça
du
se passe
Havre.
Au Havre.
Ça se passera au Havre à la maison de l'étudiant, 25, je crois, rue
Jean-Jacques Rousseau.
Il m'a enlevé mon papier, le voisin là, mais bon.
Ça sera sur le site.
C'est 25, non, c'est pas, c'est rue Philippe Lebon, 25 rue Philippe Lebon, maison de l'étudiant.
Non, c'est rue Jean-Jacques Rousseau.
Non, rue Philippe Lebon.
Bon,
c'est pas grave, c'est au coin de la
c'est
rue.
C'est pas grave, c'est à côté du parking qu'il y a.
rue Jean-Jacques Rousseau.
Près de la fac.
Le moi, bon je dirais ça aussi.
De toute façon, vous suivez la police, vous allez y trouver tout de suite.
Merci Pascal, c'est vrai.
Et
pour une fois que c'est pas elle qui nous suit, à bon entendeur.
Bon.
Et donc, le midi, il y aura, dès le midi, il y aura une exposition, des panneaux avec des photos, des textes pour présenter un peu Réseau Éducation Sans Frontières. Et puis, le soir, à partir de 18h30, nous aurons quelques groupes qui viendront animer la soirée, donc entre autres Anaïs et Rebecca,
ouais,
Chantiman Express,
ouais,
Girl,
ouais,
wow,
Dominique Comon,
ouais,
Fenouil et les Fines Herbes,
ouais,
les Gypsy Pigs,
ouais,
c'est mon frère, les Swank,
ouais.
Et pour animer la soirée, nous compterons sur la présence de Vikash Dorasso.
Qui, maintenant, qui ne joue plus au football,
voilà,
en table.
Qui s'ennuie un peu,
voilà,
alors qu'il a été viré du
qui
PSG.
Parrain, je crois.
Tu as trouvé un but.
Qui est parrain d'un enfant.
D'une
voilà,
famille.
Il semble avec sa femme, oui, tout à fait.
Voilà, bon, bah, c'est à peu près tout.
Ah oui, bah, une belle soirée musicale. Entre une parenthèses, c'est très familial, puisqu'ils ont quasiment tous, je crois, été nos invités... ici c'est même à Radio Apple Pie, c'est pas
Dorasso
formidable ça.
Mais...
Dorasso, non, c'est vrai. Bon. Ça vient.
Et Little Bob s'excuse, mais il était pris. Il fait un concert le 13 à Clermont-Ferrand, et c'est pour ça qu'il ne peut pas se joindre à nous.
Bah oui. Et donc le tout pour la modique somme, c'est.
Alors entrée 5 €, et 2 € pour les étudiants et les chômeurs.
Bon.
Et il y aura à boire et à manger sur place.
Eh bien, voilà, bah, une soirée magnifique,
voilà.
C'est pas cher. Et comme ça, comme c'est pas très cher, ça permettra aux gens peut-être de rajouter pour les petits bons de soutien, tout ça pour aider les familles et puis le réseau.
Fait.
Est-ce que vous avez Alors là, quand je dis vous, je m'adresse plus particulièrement à Marie-Hélène, Pierre et Marie-Laure. Des choses à rajouter qu'on aurait oubliées par rapport au réseau, parce que Roselyne, qui est avec vous, certes, est aussi quelqu'un qui milite pour la cause palestinienne, et comme elle est revenue il n'y a pas tellement longtemps de là-bas, on avait envie de lui poser aussi quelques questions. Alors, si vous avez momentanément un mot de la fin, non ?
Eh ben, le mot de la fin, c'est que j'espère que la juge du tribunal administratif cassera l'arrêté de reconduite à la frontière pour la famille Apsiori.
Ouais, d'accord.
Yes.
On va écouter un morceau et puis on va passer la parole à Roselyne pour autre chose, mais pas tant que ça finalement.
On va se la faire. Mais je voulais pas de mort, je voulais pas ça. Et tout à coup j'y ai parlé. Police partout, justice nulle part. Allez les gars,
on embrasse Pierre qui est obligé de nous quitter. On le remercie d'être venu. Salut parrain. Et puis on écoutait les Bumblebee qui eux aussi sont sur le volume 3 de Polaroid Rock. Et je suis désolée, je ne sais plus le morceau de quel auteur de roman noir ils nous interprétaient, mais on vous le dira tout à l'heure. C'est pas un problème.
Ah ben ah, non, l'excellent Patrick Barr, auteur de La Frontière, qui a eu le prix du Polar à la plage de cette année.
Absolument.
Merveilleux.
Voilà, et dont l'interview est en ligne sur Radio Apple Pie.
Mon bar.
Non, Patrick.
Patrick Barr. Journaliste formidable.
On va dire barde.
La Frontière, quand même. Alors, vite fait, du coup, La Frontière est un livre qui parle, que Pascal a chroniqué il y a déjà fort longtemps, d'ailleurs, à Radio Apple Pie. Un livre qui parle de toutes ces femmes assassinées à Ciudad Juarez, sur la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Voilà, enfin bon, il y a une interview qui nous a gentiment accordé 3 bons quarts d'heure, donc On vous renvoie à ça, elle est en ligne sur le site de Radio Apple Pie. Alors Roselyne, c'est vrai que je disais que tu es que tu milites pour les droits du peuple palestinien. Je crois que c'est la troisième fois que tu es allée en Palestine.
Troisième fois, oui.
Est-ce que tu peux nous dire d'où tu nous reviens il n'y a pas si longtemps, Naplouse, je sais, sinon.
Alors nous, la région où on travaille, avec les gens avec qui on travaille, c'est sur Bethléem. Et puis cette fois-ci, on a surtout circulé sur Jérusalem, Naplouse, de façon à pouvoir re-rencontrer des gens qu'on avait déjà vus, parce que sur Naplouse, on a le projet, si la situation se stabilise un peu, de travailler avec l'association Darna, qui s'occupe d'activités, de mettre en place des activités pour les enfants, pour permettre aux enfants de garder des rêves d'enfants et de rester des enfants, plutôt que d'être conditionné et élevé dans cette violence permanente, surtout que la Naplouse, c'est extrêmement tendu. C'est la ville où c'est vraiment où j'ai le plus mal vécu mon séjour.
C'est très, très dur.
Parce que c'est très, très dur, très, très dur. La nuit, on y était. Les Israéliens ont explosé une maison qui était derrière l'hôtel où on dormait. Ils ont fait sortir les gens et ils ont explosé la maison.
Alors, quand on dit, bon, vite fait, c'est vrai qu'ici, à ces micros, on a souvent parlé de la situation en Palestine. Voilà, il y a eu des missions aussi auxquelles j'ai participé. On a reçu d'autres personnes. Donc, je pense que nos audinotes peuvent se référer à différentes émissions. Néanmoins, il est quand même bon de préciser ça. C'est-à-dire que quand on dit faire sortir les gens des maisons, c'est, 10 minutes avant, encore, hein, barrez-vous, prenez ce que vous voulez. Bon, évidemment, les gens...
ont rarement le temps de prendre grand chose de par la peur.
Et puis on détruit en général parce qu'un supposé résistant qu'ils appellent des terroristes habite cette maison.
Généralement, ils n'ont même pas besoin de. Ils n'ont pas de prétexte de justifier, ouais, ils n'ont aucun prétexte. Ouais. Ils ont décidé que ce soir-là, c'était cette maison-là, et demain, ce sera une autre, et après-demain, ce sera encore une autre.
Là, en l'occurrence, c'était dans la vieille ville ou dans un camp parce que...
C'était à côté de la vieille ville.
Ah, d'accord.
Donc, nous, on dormait en centre-ville, quoi, juste à côté de la ville. Et la semaine d'avant notre arrivée, il y avait 4 personnes qui avaient été tuées dans la vieille ville. Donc, c'est vrai que sur Naplouse, il y a régulièrement des gens qui sont assassinés, parce que ce sont des assassinats, c'est pas un accident d'un type en train de nettoyer son pistolet ou sa kalachnikov. Hein. Ce sont des gens qui sont réellement assassinés par d'autres qui occupent un pays.
Ouais, Naplouse, c'est... il appelle la ville martyre et c'est vrai qu'elle paye un très très lourd tribut à l'occupation. Par rapport à Darna, est-ce que c'est aussi le fait qu'ils organisent, qu'ils souhaitent organiser des camps de vacances, donc parce que tu m'avais parlé d'organisation, d'aller l'été en tant que musicien, sportif ou autre.
Alors justement, oui, ils cherchent des personnes qui sont prêtes à passer un mois ou deux mois, selon leurs souhaits, là-bas à Darna, pour pouvoir faire profiter aux enfants d'activités différentes, telles que la peinture, la chorale, la danse, la photo, l'informatique. Même certains souhaitent prendre des cours de français, par exemple. Donc, il peut y avoir des enseignants qui partent. Ils cherchent aussi des infirmiers et des médecins. Parce que avant, le Médecins sans frontières avait mis en place des petits hôpitaux de campagne, parce qu'il y a des villages qui sont extrêmement isolés. Et puis, depuis un an, Médecins sans frontières ne va plus sur la Palestine, pour des raisons XY, que je ne maîtrise pas bien, donc je n'en parlerai pas. Et évidemment, ces populations-là sont aussi touchées, malgré tout, même si Médecins sans frontières est parti. Donc, ils essayent de mettre en place, la population essaye de mettre en place des groupes, médecins, infirmiers et ambulanciers, pour aller dans ces petits villages extrêmement isolés, voir si les gens sont malades, sont blessés, ont besoin de soins divers.
En tout cas, je pense, parce que un certain nombre de personnes, ici même, dans le bar de l'Apple Pie, ont discuté déjà avec moi, avec toi peut-être aussi, de la nécessité d'une part, de la possibilité, et aussi de, je sais pas comment dire, ouais, la façon d'apporter quelque chose. Souvent, des gens disent oui, d'accord, moi ça m'intéresse, je me sens solidaire de la cause palestinienne, évidemment, d'autant plus de faire quelque chose pour les enfants, mais quel savoir je peux apporter, voilà, à quoi je vais être utile là-bas, quoi. Donc toi, tu confirmes que c'est vraiment important de s'y rendre, d'autant plus.
C'est important d'y aller, et en plus, moi j'ai envie de dire que, à la limite, quelqu'un qui n'a pas de compétences particulières est aussi le bienvenu. Parce que quand on va dans les rues, quand on se balade dans les rues, ou qu'on aille dans n'importe quelle ville où que l'on soit, les gens nous saluent toujours, toujours, et nous disent merci d'être là. Et merci d'être là, pour eux, ça veut dire que on va prendre le bus, et ben on va mettre 3 heures pour faire 20 kilomètres. Comme il y a des étrangers, les soldats vont pas les emmerder, ils vont mettre une demi-heure. Bon, ils n'auront pas de contrôle de papier, ils vont passer le checkpoint tranquillement. Quand ils le passent seuls, ils ne savent pas s'ils vont arriver de l'autre côté. Ils peuvent être très bien être tués pour une raison, pour aucune raison, pour aucune raison. Hein. Et c'est vrai qu'il faut, il faut jamais oublier, quelles que soient les émissions qu'on puisse entendre, il faut jamais oublier que c'est Israël qui occupe la Palestine. Et moi, quand on me dit c'est un conflit israélo-palestinien, je dis non, c'est une occupation d'un pays par un autre. C'est complètement différent et il ne faut pas se tromper.
On a eu l'occasion d'entendre une conférence pendant la semaine de la solidarité avec Manal Tamimi, qui vient justement de Naplouse, qu'on avait rencontré, enfin quelques-uns de Normandie, il y a maintenant 4 ans, qui fait partie d'une association qui s'appelle Human Supporters, et qui justement, elle travaille, elle est psychologue, beaucoup avec les enfants pour leur faire... peut-être pas oublier, mais vivre autrement l'horreur de l'occupation, c'est-à-dire par exemple... plutôt que de jeter une pierre, dessine-moi ta réalité ou fais passer des messages aux soldats. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire aux soldats si tu ne leur envoyais pas une pierre? Donne-moi un message et moi je l'apporterai. Elle était là avec une militante israélienne des droits de l'homme, pardon, et contre l'occupation qui s'appelle Tal Dor. Et on espère bien les faire revenir et les interviewer. Et voilà, bon, ça rejoint ce travail sur les enfants. Mais moi, je voulais quand même te redemander quelque chose parce que c'est pas pour te jeter des fleurs, Roselyne, mais je sais que ton retour pour cette 3e mission a été quand même quelque chose de très courageux parce que la dernière fois que tu étais là-bas, si je ne m'abuse, c'était à Belein, dont on a aussi parlé ici, hein, ce village qui résiste contre le mur, qui vraiment, dont le mur, comme ailleurs, hein, coupe les terres agricoles du village. Qui est vraiment cerné de colonies épouvantables, sur lesquelles on exerce une violence terrible. On teste en fait, en quelque sorte, toutes sortes d'armes. Tu pourras en rajouter. On avait parlé le jour où on recevait le mouvement de la paix, notamment. Par exemple, des grenades assourdissantes, par exemple, enfin,
bon,
des balles en caoutchouc, ce qu'on appelle balles en caoutchouc. Voilà, on pourrait y revenir. Bon, puis des balles réelles, etc. Et tu avais vécu, toi particulièrement, une manifestation assez atroce à Belein.
Ben, on a vécu. Alors, à Belein, tous les vendredis, il y a une manifestation justement contre la construction du mur, et se retrouvent là des Palestiniens, des internationaux et des Israéliens. Qui sont pour la cause des Palestiniens, et il faut savoir que c'est encore plus courageux pour eux que pour nous, parce que eux ils vivent là-bas et eux ils sont bannis de leur famille. C'est-à-dire que c'est être un traître à sa famille et à sa patrie que, en tant qu'Israélien, défendre une cause palestinienne. Et c'est vrai que quand on était allé à Belein, on était arrivé dans la manifestation, et au départ c'était très calme, et puis au fur et à mesure que le temps passait, c'était de plus en plus violent, et ça s'est terminé à coups de lacrymo. Ils tiraient sur des gamins qui avaient 10 ans, quoi. Et quand on dit ils tirent pas à côté, ils visent les gamins. Alors évidemment, les gamins restent des gamins qui lancent des cailloux, hein, y a pas. Et on a beau essayer de discuter avec les soldats en leur disant mais ce ne sont que des cailloux et vous avez les balles en caoutchouc. Mais comme l'expliquait la semaine passée une jeune femme qu'on a rencontrée dans une réunion, en Israël, les enfants, tout enfant, on est élevé dans la négation du Palestinien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'existent pas. Alors, à partir du moment où ils n'existent pas, ils n'ont pas lieu d'être ici. Donc on peut tirer dessus. Il n'y a aucune raison de ne pas tirer. On peut les tuer comme on veut. Et c'est vrai qu'à Belein, c'est vraiment un regroupement où il y a une violence importante. Et puis, il y a une espèce d'émulsion comme ça qui se fait, parce qu'il y a des jeunes, des moins jeunes. Et c'est assez impressionnant. Et moi, les jeunes Israéliens se sont assis devant les voitures et les rouleaux de barbelés, qui ne sont pas les petits barbelés pointus de chez nous, mais ce sont des lames de rasoir qui sont placées sur les barbelés. Eh bien, ils s'asseyaient, ces jeunes, et en tapant dans leurs mains, ils criaient aux soldats « Soldats, combien as-tu tué d'enfants aujourd'hui ?» Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement courageux, parce que les autres, ils étaient armés. Je ne sais pas si moi, j'aurais osé le crier si fort. Et franchement, c'est assez émouvant, parce qu'après, il faut courir vite, et très vite. Et la petite anecdote, parce que bon, dans ces cas-là, il vaut mieux quand même avoir un peu un côté anecdotique, ça me permet de tenir. C'est que moi, le lendemain, on a couru très vite, parce que quand ils ont commencé à tirer, on est parti en courant. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, j'avais mal aux jambes, comme si j'avais fait 3 km de marche. Et je dis à la personne avec qui j'étais, je lui dis, oh là là, j'ai mal partout. On a tellement couru hier. Et elle s'esclave de rire. Elle me dit, tu rigoles, on a fait 300 mètres. Mais j'avais tellement eu peur que j'étais tellement tendue que j'avais couru. J'avais l'impression d'avoir fait un marathon. Quoi.
Vous avez perdu un pantalon, non?
Et j'ai, oui, dans les barbelés, j'ai laissé un pantalon. Mais bon, ça, c'est sur...
Non, mais j'ai parti... Roselyne, tu vois, parce que...
Oui, oui.
En fait, c'est vrai que pour les gens... les Palestiniens vivent une situation épouvantable là-bas. Les Israéliens extrêmement courageux qui vont mener une lutte, mais vraiment, enfin, c'est terrible quoi, de retourner tous les vendredis, etc. D'un autre côté, c'est vrai, tu as eu, je l'ai eu, je crois que tous les gens qui sont partis en Palestine et revenus se sont posés la question à un moment donné de repartir justement. Ouais. Quelle est l'utilité par rapport à la démence de cette violence.
Tout à fait.
Et puis la peur, quoi. N'ayons
moi,
pas parlé
je suis allée en octobre. Non, c'était... Excusez-moi. C'était au mois d'avril.
Oui.
Quand j'y suis allée au mois d'avril, en revenant, je m'étais dit que j'y retournerais jamais. Parce qu'on avait vécu quelque chose d'atroce. On a vu des gens se faire fusiller dans leur voiture. Et après, on est allé à l'inhumation des gens. Ils ont été fusillés parce que l'armée... L'armée était en civil et puis ils étaient très agacés de ne pas avoir pu arrêter la personne qu'ils étaient venus chercher parce que le commerçant palestinien avait eu le temps de partir. Et donc ils étaient très en colère, ils sont sortis du commerce et ils ont envoyé une rafale de mitraillettes sur une voiture qui passait. Donc ils ont assassiné des gens comme ça gratuitement qui passaient. Et après, le lendemain, ça a été l'enterrement. Donc, comme on était des internationaux, ça rejoint ce que tu disais. Les gens ont demandé à ce qu'on soit présent pour pouvoir raconter après ce que je fais, évidemment, aujourd'hui. Mais c'est pas sans douleur parce que c'est vraiment atroce de vivre des choses comme ça. Et moi, ça m'a énormément perturbée et je m'étais dit, j'y retournerai pas. Et puis, en fait, au mois d'octobre, j'y suis retournée quand même parce que je me suis dit, ben oui, c'est important d'y être. Il faut y être pour pouvoir le raconter après. Parce que on sait très bien que tous les beaux discours qui nous tiennent encore tout à l'heure, on parlait de ce qu'on entendait sur France Inter tout à l'heure, ils nous parlent d'une trêve entre Gaza et les Israéliens. Enfin, on ne nous raconte pas non plus les tunnels qu'ils sont en train de construire, les cantons où ils vont parquer les Palestiniens d'ici 5 ans, le mur, les routes de contournement, les routes de détournement, de façon à ce que les Palestiniens passent dans des tunnels pour ne pas rencontrer les Israéliens. Et après, on nous parle de trêve de paix.
Pour en revenir à justement la situation des Palestiniens, puisque hélas, Manal Tamimi, dont je parlais tout à l'heure, la première fois qu'elle est venue en France, ne parlait pas français. Elle a fait une conférence à la faculté, traduite par une amie qui est prof, qui est d'origine libanaise, et elle parlait anglais. Bon, voilà, c'était traduit. Ce qu'elle a dit la dernière fois, qu'elle est venue ici au Havre, et ce qu'elle dit un peu partout en France, malheureusement, c'est le seul progrès depuis 4 ans, c'est que moi, j'ai appris à parler français depuis. Sinon, je vous avais dit il y a 4 ans que la situation empirait. Et je suis obligée de dire qu'effectivement, ça empire sans cesse. Alors ça, pour le coup, autant il y a des choses qui peuvent nous rendre optimistes dans des solidarités ici et là, hein, en France comme dans le monde, autant vraiment là-bas, malheureusement, je crois qu'on le constate tous et toutes, c'est effectivement de pire en pire. Et ce que je voulais te demander, pour en venir au fait, c'est... parce que bon, la dernière fois que j'étais, donc c'était en février pour la conférence à Belen, justement. Conférence pour la paix, parce que vite fait quand même... Il faut signaler que, particulièrement là-bas à Belen, c'est un mouvement entièrement pacifique, d'où encore plus la disproportion. Hein. C'est pas seulement un peuple occupé qui résiste à sa façon face à une des plus puissantes armées du monde, mais c'est en l'occurrence volontairement, hein, une lutte pacifiste avec des gens qui ont réfléchi sur le travail de Gandhi et autres acteurs de la paix, quoi. Donc ce que je voulais te demander, cette parenthèse fermée, c'est, puisque tu disais là c'est tout récent, l'aide internationale avait commencé à s'arrêter après l'élection du Hamas justement en février quand j'étais là-bas. Je pense qu'on doit sentir maintenant les effets désastreux de cette absence d'aide financière européenne.
Là, ils sont à leur 9e mois de grève, sans aucun moyen financier. Tout à l'heure, on parlait de solidarité entre les sans-papiers. Là, c'est de la solidarité, parce qu'au départ, dans le privé, les gens avaient un salaire. Dans le public, les gens n'en avaient plus. Donc, dans une famille, quand au moins il y en avait un qui était dans le privé, ils avaient encore de quoi manger. Quand les deux étaient dans le public, c'était catastrophique. Effectivement, là, ils sont arrivés à un état de pauvreté extrême dans les soins, dans l'alimentation. Nous, les amis qu'on a revus, bah, ils ont tous perdu beaucoup de poids. Et puis ça, c'est un signe. Hein. Ils ont l'air extrêmement fatigués, épuisés de cette lutte constante. Et puis, on voit des gamins qui commencent à mendier, chose que j'avais encore pas vue. Là, en y allant la dernière fois, il y a des gamins qui commencent à mendier, des mères aussi, hein, et ça c'est un signe. Le commerce parallèle, les tout petits commerces où les gens commencent à vendre des choses auxquelles ils tiennent généralement, quand on commence à voir ça sur les trottoirs, c'est qu'effectivement il y a une extrême pauvreté qui s'est installée, et c'est extrêmement difficile de le vivre, d'y aller, parce qu'on est presque gêné de manger, en fait, parce que quand on y va, les gens s'endettent pour nous nourrir. Et on sait très bien que eux, ils vont demain, ils ne mangeront pas pour pouvoir récupérer ce qu'ils nous ont donné. Donc c'est extrêmement difficile de vivre, d'être solidaire dans le sens où on sait que ça va coûter et que on sait aussi qu'ils n'accepteront jamais,
oui,
que
ça,
on finance quoi que ce soit. Donc nous, la seule solution qu'on ait trouvée, c'est d'arriver avec un sac de fruits, un sac de légumes. Bon, on apporte des choses à manger qu'on achète sur les marchés en passant, parce qu'il y a de quoi manger, il y a des légumes, il y a tout ça, mais le problème c'est que les gens n'ont pas d'argent, n'ont plus rien.
Ce qui est atroce, c'est qu'effectivement la rapidité avec laquelle ça se passe, c'est que bon, oui, il y a l'hospitalité arabe, oui, il y a l'hospitalité palestinienne, le plaisir de voir que des gens s'intéressent, puis même le plaisir de recevoir tout court, qui fait que, comme dans nos endroits, en Afrique peut-être, enfin bon, effectivement les gens ont le sens de l'accueil, même si ça prive un peu la famille momentanément.
Tout à fait, oui.
Tu es moins gêné, mais de plus en plus, puisque voilà, il y a eu des rapports de Médecins du Monde notamment, qui indiquent carrément que des femmes accouchent d'enfants, totalement rachitiques. Oui. Enfin, la situation est grave au sens. C'est pas pour faire de l'alarmisme bêta, hein,
je pense qu'on est bien
d'accord.
Bien sûr que
mais
non.
Il se trouve que, avant le début de la deuxième intifada, et donc du bouclage de toutes les villes et de la construction du mur à ce point-là, et évidemment avant que l'Europe punisse le peuple palestinien d'avoir démocratiquement élu ce qu'il ne fallait pas, somme toute, sans être prospère, il y avait quand même déjà au moins 40% de chômage.
Là, ils sont à 80%.
Bon, ça restait un pays qui arrivait à se débrouiller. Alors qu'effectivement, là, on peut le dire, il est vraiment temps de réagir.
Or, et là, l'UNRWA donne de moins en moins d'aide, qu'en même temps, bon, ils n'ont plus les moyens qu'ils avaient. On ne leur donne plus les moyens qu'on leur a donnés au départ. Et moi, j'ai vu une manifestation des gens qui travaillent à l'UNRWA, des Palestiniens qui travaillent à l'UNRWA, lors d'une distribution de vivres juste en face de là où on habitait, quoi, pour effectivement faire voir que eux n'avaient pas de salaire, n'avaient plus de travail. La plupart vont travailler. Là, quand on est parti, l'école primaire recommençait deux fois par semaine. Mais c'est tout. Et les seuls qui avaient classe, c'était les élèves qui passent le bac. Il n'y a que ces élèves-là qui avaient classe, mais au niveau des enseignants, ils étaient tous en grève. Au niveau des hôpitaux, les hôpitaux sont fermés à l'heure d'aujourd'hui. Les urgences aussi. Ça veut dire que les femmes qui accouchent, les enfants, les gens qui sont blessés et tout, ne peuvent plus être soignés. Tout est fermé. De toute façon, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien dans les hôpitaux. Donc les gens ne peuvent même pas se faire soigner, il n'y a rien. C'est la misère, le désœuvrement total. Et je pense que ça arrange, et ça a été fomenté depuis longue date, et ça arrange bien des peuples, y compris la France, d'avoir placé les Palestiniens dans cette situation. Parce qu'on parle des Palestiniens, mais on pourrait parler plus précisément de ce qui se passe à Gaza. Moi, quand je dis c'est un centre de concentration, Hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vécu dans d'autres temps. C'est-à-dire que ces gens-là ne peuvent pas sortir. La seule issue de sortie, c'est la mer. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont rien.
Même pas pêcher.
Voilà. Ils ne peuvent plus pêcher. Ils sont encore plus miséreux que le Palestinien qui habite à Naplouse. C'est pas peu dire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Et tout à l'heure, sur France Inter, on entendait, ils nous ont repassé la sortie des colons de Gaza qui hurlaient parce qu'ils ne pouvaient pas quitter leur terre. C'est une fumisterie absolument atroce. On sait très bien qu'ils ont sorti les colons pour pouvoir mieux assassiner les Palestiniens. Le but, c'était uniquement ça, c'était pas autre chose.
Je dois dire que cette émission dont on parlait tout à l'heure, que j'ai un peu essayé d'éviter vu qu'on préparait l'émission, Charles Anderlin, qui est vraiment dans les journalistes qui travaillent sur la Palestine, vu qu'il est correspondant permanent de France 2 depuis des années, est vraiment un des moins pires. Vraiment, c'est tout à son honneur de d'essayer vraiment, même si c'est difficile et on n'est pas toujours d'accord avec lui, d'être objectif et de bien resituer les choses. C'est peut-être plus... bon, après, c'est peut-être aussi leur travail de journaliste. Je réécouterai l'émission. Les intervieweurs, en l'occurrence de la bande à Bono, qui ont mis l'accent sur... Mais je, franchement, je pense que c'était un petit peu pour lui faire dire quelque chose. Mais bon, sur le fait que les colons, voilà, quand ils ont été retirés de là-bas par l'armée israélienne, se plaignaient carrément d'être déportés. Charles Anderlin, j'ai quand même entendu une bribe, oui, était extrêmement précisé, droit en disant attention, c'est quelque chose qui s'est passé très rapidement et somme toute, malgré la médiatisation ridicule, sans tant de problèmes que ça, sachant que ce sont, comme Charles Anderlin lui-même l'a précisé, des gens qui reviennent dans un pays qui touchent des indemnités énormes, qui pour
qui
certains
ont
été là que depuis 15 ans. Oui. Et bon, voilà,
tout
quoi,
à fait. C'était pas
assez avec le déchirement des colons, quoi. Non, c'est vraiment, donc, pour rendre un hommage quand même à Charles Anderlin, même si je suis pas toujours d'accord avec lui, je pense qu'il fait quand même un travail de journalisme assez intéressant et que son livre Le rêve brisé est le dernier. Bon, et bien, dont vous trouverez les coordonnées sur le site de la radio. Enfin, va plutôt à contre-courant de ce qu'on entend dans les médias occidentaux.
Et c'est vrai que, pour terminer sur ce que tu disais, qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, je crois que plus on en parlera, déjà, pour commencer, il faut en parler, il faut raconter. Alors, je pense que ça, c'est une des premières choses à faire. Bon, puis après, si on a envie d'y aller, on peut y
aller.
Il faut y aller. Parce que de toute façon, c'est aussi, même si les maisons sont en ruine et tout, c'est aussi un beau pays quand
même.
Non,
mais c'est, ça, oui, c'est très agréable,
c'est
en fait.
C'est un très beau
pays. On ne peut pas
aussi
dire que des
horreurs. On va pas faire du Club Med. Non, ne rassure-toi.
Non, c'est pas ça. C'est que j'essaye d'en placer une depuis tout à l'heure. J'y arrive.
Nous, le langage des 100 mètres, si tu veux.
Justement, sur ce qu'on peut faire, est-ce que cette fois-ci encore, c'était une mission syndicale?
Alors, cette fois-ci, c'était pas une mission syndicale.
D'accord.
Parce que le problème est simple. Ils sont en grève et ils sont en grève, mais ils sont quand même obligés de faire 3 travaux pour pouvoir manger. Donc, il a été impossible de rencontrer les gens qu'on connaissait parce qu'ils font des petits boulots à droite, à gauche.
D'accord.
Parce qu'il faut quand même manger.
Alors,
donc,
mon
le problème, il était là.
Ok, mon autre question, elle était aussi par rapport à ça. Tout à chacun, dans son boulot, peut se renseigner auprès de son syndicat, s'il existe, parce qu'on peut découvrir et être étonné que chez certains syndicats dans des grosses boîtes, eh ben, y a des missions civiles qui se font en Palestine.
Bien sûr.
Alors, est-ce que tu peux nous dire concrètement comment ça se passe, une mission syndicale, quand on travaille, je sais pas, moi, pour l'éducation nationale, pour... la mairie, pour une boîte privée, une boîte publique. Comment ça se passe pour un salarié qui veut faire une mission civile?
Bon, alors déjà, c'est
une mission, c'est syndicale.
Ouais, bon, déjà, c'est sur le temps de ses vacances personnelles, déjà, pour commencer. À ses frais personnels, bien évidemment. Ça, c'est le... Ouais. Bon. C'est la base du... Oui, voilà, c'est ça. Ben, je n'ai pas parlé des enseignants, ça va changer un petit peu. On pourrait parler du tramway qui va traverser Jérusalem et qui va couper la ville en deux, par exemple. Il y a Alstom qui est sur le coup. bien connue. Et entre autres, il y a le syndicat de la CGT qui a commencé à contester la construction, la participation de Alstom à la construction de ce tramway. Et effectivement, ça peut être donc en France, et puis ça peut être sur place, aller rencontrer des gens qui travaillent sur la construction de ce tramway en Palestine, et aller rencontrer les syndicats des travailleurs palestiniens pour voir comment ensemble on peut travailler pour s'opposer à la construction de ce tramway qui va couper carrément Jérusalem en deux. Ça, c'est un exemple.
Et de facto, on avait déjà abordé, annexer Jérusalem, qui, rappelons-nous, y compris dans les accords d'Oslo, était censé être la capitale du futur État palestinien.
Bon, voilà.
Pour le tramway, juste avant de te passer la parole, Ludo, parce que avant que Laetitia se manifeste par des signes qu'on n'avait pas vus, je t'avais bien vu choper le micro. J'ai un meilleur angle de vue vers là. Mais par exemple, pour répondre à ta question, Laetitia, dans des missions syndicales, par exemple, Jeanne Rousseau, qui était partie plusieurs fois en Palestine, qui était infirmière, a été aidée par son syndicat, au sens où ses collègues, qui ne pouvaient pas ou n'avaient pas la force ou le temps, enfin bon, etc., d'aller directement là-bas, on fait une collecte pour l'aider à financer son voyage. Il peut se passer aussi des choses comme ça au sein d'un milieu de travail. Quoi. Ça peut aider.
Moi, quand je suis partie la première fois, c'était en mission syndicale avec Sud Éducation, dans le cadre de l'enseignement, et on avait mis en place un échange avec des enseignants et des gamins dans une école, avec des élèves que moi j'avais, par Internet. Le problème, c'est que l'électricité est coupée régulièrement en Palestine. Les horaires de travail, avec les problèmes de transport, les problèmes d'argent, ont fait que c'est un projet qui est tombé à l'eau. Parce qu'aujourd'hui, les étudiants ne peuvent même plus aller à l'université parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer les transports.
Ludo ?
Oui, évidemment, le tableau que tu dresses est évidemment terrible et abominable. On aurait tort d'ailleurs de croire que c'est lointain, si lointain, puisque au-delà des conséquences directes pour les personnes qui vivent, les conséquences plus larges se répercuteront au niveau international. Et justement, on parle depuis tout à l'heure de société civile, de syndicats, mais vu l'ampleur de la question, c'est aussi quelque chose qui, censément, devrait se régler au niveau de la politique internationale. Et puisqu'on est de manière plus ou moins avouée, on balance, on tortille, etc., en campagne présidentielle, est-ce qu'il y a des politiques qui te paraissent proposer des solutions dignes et intelligentes pour les problèmes immédiats du peuple palestinien ?
Bah écoute, pour l'instant, j'ai encore rien entendu. Comme on disait tout à l'heure, ils parlent beaucoup d'eux, pas beaucoup des autres. Ce qui les intéresse, c'est leur propre petite personne. De toute façon, la France a quand même pas beaucoup bougé quand les aides ont été coupées. Tout ce qu'ils avaient trouvé, c'était envoyer des aides, mais en passant par la mise en place d'une association qui redistribuerait. Enfin, c'était un truc tellement tordu
des choses qui contournent le gouvernement démocratique.
Voilà, qui contournent le gouvernement qui s'appelle le Hamas, hein, tout simplement, disons-le. Alors effectivement, on pourrait discuter du Hamas pendant des heures, mais c'est vrai qu'au niveau politique en France, et comme tu dis par rapport aux élections, c'est un sujet extrêmement brûlant, pour lequel personne ne veut y mettre les mains. Et je pense pas que ce sera par une élection, qu'elle soit de l'un ou de l'autre, que ça changera quoi que ce soit pour le peuple palestinien.
Et c'est pourtant l'une des tâches, si l'on peut dire, principales à laquelle s'atteler un candidat présidentiel.
Oui, je voulais juste rajouter justement que j'ai appris, en écoutant les actualités, que une des candidates à la présidentielle, c'est-à-dire Ségolène Royal, part justement visiter
au Liban
à la fois Israël, Palestine, Liban, a priori. Donc, je pense que nous en saurons plus dans les jours qui suivent. Moi, personnellement, ce que je pense, je suis peut-être cynique hein, sur cette candidate.
Mais, je pense qu'on va être cynique à deux.
Je pense qu'on en saura plus sur sa manière de bien se faire voir là-bas, pour sa démagogie personnelle. Mais bon, si jamais il en ressort quelque chose, si jamais l'ambition politique de rencontrer réellement les interlocuteurs palestiniens, eh bien, qui sait, elle reviendra peut-être avec des propositions.
On verra.
Ah, 下次再来花，在中环开个店，你说行吗？
Gun Dance de Lam Wat Chuen, bande originale de Made in Hong Kong. Ce soir, on parle polar hongkongais. Ah oui, encore cinéma asiatique, me dira-t-on. Eh bien, oui, encore cinéma asiatique, parce que cette rubrique, et c'est pas lié spécifiquement au cinéma asiatique par ailleurs, tente à devenir, j'allais dire, le refuge, entre guillemets, des films qui n'ont pas trouvé de possibilité de sortir en salle en France, malgré leur grande qualité. Il y a une quinzaine, on parlait de Au service de Satan, Satan's Little Helper, dont je disais le plus grand bien, et je m'étonnais que, alors que d'autres productions horrifiques d'un intérêt bien moindre soient sorties, lui débarque directement en vidéo. C'est hélas le cas du film de ce soir, à savoir Une nuit à Mongkok.
Une nuit à
Mongkok. Mongkok, c'est un quartier de Hong Kong. Alors, pour les familiers du cinéma hongkongais de manière générale, également pour les familiers du cinéma d'action et polar hongkongais, Mongkok est un quartier qui a déjà beaucoup été visité, parce que Hong Kong, c'est pas très grand, hein, en fait. Dans un certain nombre de productions, notamment films d'action, certaines fusillades, certains deals, certains dilemmes se sont déroulés à Mongkok. Donc, Une nuit à Mongkok, film de Derek Yi. Alors, Derek Yi, et alors là, tu vas voir. Alors, ce soir, c'est. Alors, c'est pas une chronique cinéma bis, c'est une chronique partiellement bis. Et c'est ça qui est bien. On va dire que c'est une chronique. Parce que c'est-à-dire que le film de ce soir ne peut pas, en toute honnêteté, de qualifier de bis. C'est du cinéma de genre, évidemment. Mais évidemment, Derek Yi, c'est quelqu'un qui a deux carrières. Alors, je pense qu'il est majoritairement connu en France par les fans pour sa carrière en tant qu'acteur. Parce que Derek Yi, c'est comme on dit, un enfant de la balle. Hein. Il est né dans une famille qui était extrêmement impliquée dans le cinéma hongkongais dans les années 60-70. Derek Yi, alors vraiment pour les amateurs, c'est le frère de Paul Chun et de David Chiang. Alors, David Chiang, c'est quand même le héros de La Rage du Tigre. C'est
un mec avec lequel on ne s'ennuie jamais.
Ah, ça, je peux te l'assurer. On va dire, si on voulait forcer le sous-entendu homo-érotique, c'était une des égéries de Chang Che, qui a beaucoup aimé mettre à mort David Chiang et voir David Chiang mettre à mort dans ses films de sabre et de kung-fu. Et Derek Yi, alors, voilà, comme ses frères, du temps de la Shaw Brothers, du temps étincelant et décadent de la Shaw Brothers dans les années 70, il a tourné dans un certain nombre de films. Certains sont disponibles en France, donc je recommande Death Duel de Chu Yuan. Les personnes qui étaient présentes à la projection de Cannibal Peluche connaissent maintenant Chu Yuan. Voilà. Il est également présent dans L'île de la bête du même Chu Yuan, qui est un délire coloré absolument admirable. Il est, on le trouve également, c'est également le héros de Buddha's Palm. Alors là, film de fantasy wuxapian absolument sérialesque, bordélique, jouissif, que je recommande vivement. Et Derek Yi, en fait, il va passer à la réalisation. Et en tant que cinéaste, ses films n'ont absolument rien à voir avec ce qu'il a pu faire en tant qu'acteur. C'est-à-dire que, comme il le dit lui-même dans un des entretiens qui figure en bonus de Une nuit à Mongkok, les films de chevaliers, il ne les renie pas, bien entendu, mais dans les films de chevaliers, leurs ennemis leur tombent à bras raccourcis dessus par grappe, on les voit à peine manger. Moi, je suis plus intéressé par un certain réalisme. De fait, Derek Yi va tourner des films qui vont plus s'apparenter à la comédie dramatique, à la comédie sentimentale. Il a sorti un de ses films qui est sorti en France qui s'appelle C'est la vie, mon chéri. Ah, c'est mignon, hein. Et, et il va, entre autres, de manière marginale, parce que c'est pas un spécialiste, hein, contrairement aux grands spécialistes du polar hongkongais connus de par chez nous, comme John Woo, John Ito maintenant, Derek Yi va s'attaquer au polar une fois, deux fois avec une nuit à Mongkok. Première fois, c'est en 87 avec People's Hero, qu'on meurt d'envie de voir. Et en 2004, pardon, il livre Une nuit à Mongkok. Film absolument fabuleux. Alors, je répugne un petit peu à parler de coup de cœur, parce que c'est un petit peu galvaudé, mais là, je le dis, il y en aurait plein, mais s'il y a bien un film que j'ai envie de défendre cette quinzaine, vu, hélas, en DVD et non en salle, c'est Une nuit à Mongkok.
Contrairement au film Une nuit à ma poule que tu déconseilles à tout le monde.
Forcément, j'allais dire, forcément, dans la Mongkok, il y a des poules.
Je me disais, je vais griller Pascal sur ce coup-là.
Et c'est fait.
Transition du poule extraordinaire.
C'est poule grillée, c'est pas de voilà. Mauvais.
Donc c'est un film qui est
construit... Tant qu'elles sont pas mouillées.
Donc c'est un film qui est construit en trois strates temporelles. Il y a avant-hier, hier et aujourd'hui. Rassure-toi, je sais que l'heure tourne. Avant-hier et hier sont traités en 18 minutes. Donc avant-hier... photographie en noir et blanc, le film est en scope, format large, hein, mais très bon, très très belle photographie. Noir et blanc, deux jeunes voyous de gangs hongkongais dans ce quartier de Mongkok, qui est donc réputé le plus animé et la zone avec la plus grande densité de population au monde. Alors j'ai pas eu le temps de vérifier, c'est ce qui est affirmé dans le film.
À part Gaza.
On fera la vérification, quoi. Deux jeunes crétins, évidemment, dans leur gang, hein, punk relooké MTV, fascinés par tout ce que le luxe occidental peut avoir depuis tapageur, se tapent sur la gueule. Poursuite en voiture, voiture de sport, évidemment, dans les rues de Hong Kong. Une voiture emboutit l'autre, l'un en meurt, reste sa compagne, vague enjeu de ce conflit, une dénommée Sou, qui se retrouve à l'hôpital, intubée. C'était avant-hier. Hier, le père du défunt, chef de triade, cherche férocement à se venger. La vengeance s'exécutera. Début de guerre des gangs. On embauche un type très très louche, flanqué de sa femme et d'une demi-douzaine de portables qui sonnent en permanence. La femme est aussi hystérique que les portables.
Non, c'est les portables qui ont rendu la femme hystérique.
À voir. Type fort louche impliqué dans diverses affaires et qui est aussi le pourvoyeur de tueurs à gages à bas frais pour ce type d'affaires. Ce type extraordinaire, cet acteur extraordinaire, pardon, c'est Lam Suet, que les familiers du polar hongkongais connaissent, puisque c'est lui le flic qui, dans Pity You de John Ito, glisse sur une peau de banane et perd son flingue et va passer le film entier à le rechercher. Et on embauche un tueur à gages. Et là, évidemment, pour ceux qui ont une vision assez profane, voire étroite du polar hongkongais, on se dit, ça y est, c'est Chow Yun-fat, c'est John Woo, on va embaucher un Alain Delon asiatique qui va débarquer avec son costard immaculé, qui va exécuter ça lors d'une scène d'un lyrisme à tomber par terre. Et bah pas du tout. On embauche un pauvre gars, dénommé Roy, qui est joué par Daniel Wu, qui vient de Chine populaire. The Mainland, la Chine continentale.
Et alors, c'est quoi? C'est le... Jean Lefebvre de... Non.
Non. Alors,
t'es malade de dire ça, je suis...
Bah, si c'est pas Alain Delon, moi je sais pas, un pauvre type.
J'ai précisé qu'on était dans le polar. On n'est pas... Voilà, alors je précise que ce film est exempt d'humour gras cantonais. Voilà.
Comme on ne connaît pas très bien l'humour cantonais, on est un petit peu emmerdé.
Grosso modo, on n'a pas...
Tu veux dire c'est l'humour quand on rit?
Souviens-t'en, souviens-t'en. En des temps qui se perdent sous la poussière, j'en parlais à propos du Shaolin Soccer, à propos de Kung Fu Hustle. Donc qui vient de Chine populaire, qui est un jeune gars tout à fait anonyme, binocle, grosse monture, qui va
Je ne révélerai pas grosse monture.
Spéciale dédicace à tous les chroniqueurs.
Et à toutes les animateuses.
Je pensais qu'on était juste les poufs, nous.
Ah non, animateuse, ça, c'est quand même plus classe. Hein.
Animateuse. Animateuse, moi. Ouais.
Qui va, pour gagner quelque argent pour sa famille, évidemment nombreuse, accepter le contrat, prendre un visa pour Hong Kong, un visa très très limité, hein, c'est l'espace de quelques heures, 24-48 heures. Il débarque, en parfait étranger, il maîtrise mal le dialecte.
Comment on peut le comprendre ? C'est vachement triste.
Sachant que quand il débarque, il est déjà grillé parce que la police a déjà mis la main sur le relais, donc à savoir l'âme suette qui l'a embauché.
Bien sûr.
Ben, voilà.
Bien sûr.
Et donc trouve une chambre dans un hôtel et assiste dans le couloir au passage à tabac d'une prostituée par un dénommé Walter.
Je croyais qu'on n'avait plus le droit de fumer dans les lieux publics.
Ah, ce coup-ci, c'est toi qui m'as grillé.
Non, vous pouvez y aller, je raconterai le film. Hein.
Non, mais... Tu as toute licence pour ça.
Tous les sens aussi.
Et se retrouve donc sous trois feux. Sous trois feux, en fait. Il y a à la fois les triades qui veulent que le contrat soit exécuté, l'intermédiaire qui est sous le contrôle de la police qui veut éviter à tout prix une guerre des gangs et qui donc pousse très fort à piéger ce dit tueur, et puis cette prostituée dont il ne s'éprend pas. Ils vont juste être ensemble, réunis par les circonstances du destin, en ce jour... Aujourd'hui, qui est, figure-toi, le 24 décembre.
Oh non ! C'est pas vrai !
Et comme le dit fort bien notre héroïne, donc Dan Dan, jouée par l'excellente Cecilia Chung, bah aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jésus.
Ah, il y a des endroits du monde où ils s'en foutent, hein, comme quoi.
Tant qu'elle n'est pas portugaise.
Et c'est parti pour...
Un t-shirt avec marqué Jésus dessus, ça va.
Et c'est parti pour des... Pour une traque, un chassé-croisé, et puis une visite de ce quartier de Mongkok, extrêmement peuplé, à la fois forcément impitoyable, terrible, non mais, et qui en même temps comme toutes ces grandes villes grouillantes de vie, provoque nécessairement une fascination, bien entendu.
Un peu comme le quartier du rond-point.
Un peu, mais complètement. D'ailleurs, je dois t'avouer que quand je descends m'acheter ma baguette, je me crois un peu à mon coq et Cecilia Chung m'attend.
C'est pas vrai,
oui.
Dans la rue avec les croissants.
Non, dans la boutique d'en face, parce que comme chacun le sait, le quartier est peu racheté.
Oui, absolument. Mais ne riez
en
pas.
En fait, non, mais Ludo, j'ai
pour une
compris,
fois que dans une chronique de Cinémabis, on parle de la vraie réalité
j'ai
sociale
compris.
De Le Havre.
Non, alors on parle.
Non, mais Ludo, en fait, il habite dans le quartier exprès pour se baigner dans une atmosphère.
Je m'imprègne.
Il s'imprègne de l'atmosphère pour que ça corresponde avec ses films.
Non.
Non.
Oui, oui, si, si.
Ah,
oh, non.
Peur.
Ouais, enfin,
laissez-le tranquille.
Non, mais arrête, parce que là, on va multiplier les digressions. Je peux dire quand même que mon quotidien dans mon quartier est quand même assez loin de Female Yakuza Tale ou d'une femme à sacrifier que j'ai maintes fois évoquée. Voilà.
T'as
bon.
Pas vu beaucoup de combats de Yakuza dans le coin ?
Non. Non, mais en même temps, je suis pas triste. Hein. Ça va aller. Hein. Voilà. Donc, justement, oui, non, mais de fait, réalité sociale. Réalité sociale, le réalisateur voit son film comme un drame sur fond policier. Alors, j'aime pas beaucoup ces précautions d'usage parce que c'est quelqu'un qui n'est pas un grand familier du polar, mais l'avantage, parfois, c'est que des gens, justement, qui ne sont pas familiers d'un genre, comme par exemple Fruit Chan, quand il fait Made in Hong Kong, dont on a entendu un extrait de la BO.
Ou quand Raoul Coutard participe à un SAS. Non, ça nous éloigne du propos.
Bientôt sur notre site, l'interview de Mathieu Cerveau à propos de son documentaire tout à fait intéressant. Il arrive parfois, effectivement, que des gens se coulent dans les codes d'un genre défini et sans à aucun moment le mépriser tout en gardant un point de vue personnel. quand cet équilibre est respecté, quand ce respect du public, quand ce respect du genre et à la fois quand cette vision d'auteur sont présentes, en général, ça donne des très très grands films. C'est le cas de Une nuit à Montcoq, qui est à la fois, qui est à la fois une vision acerbe de l'immigration de la Chine continentale à Hong Kong, puisque la dite prostituée, donc Dan Dan de Cecilia Cheung, se trouve au niveau du visa quasiment dans la même situation que ce tueur à gages qui finalement n'exécutera jamais son contrat. C'est des visas de quelques jours pour faire quoi ? Pour se prostituer dans un hôtel, pour acheter le maximum de choses qu'elle va pouvoir rapporter à sa famille, et aussi, évidemment, malgré ses airs frivoles, malgré ses airs consuméristes et désinvoltes, se cache une vraie amertume pour aussi, évidemment, subir les coups des clients. Est-ce que tu penses bien que le fameux Walter brut épaisse du début va ressurgir lors d'une scène réaliste, crue, limite insoutenable?
Quand Ludo dit limite insoutenable, ouais, ça veut dire que nous, on se cache les yeux, voilà, les oreilles.
Ouais.
Non.
C'est d'une violence assez dure. C'est-à-dire qu'un des acteurs qui joue l'un des flics qui sont à la recherche et qui sont présents en permanence, c'est Shin Carlock, qui a coordonné pas mal de séquences d'action, qui est chorégraphe. En l'occurrence, là, il ne s'agit pas du tout d'un film d'arts martiaux. Contrairement à SPL, Pascal aime beaucoup, il va pousser un « ouais » dans le micro, s'il te plaît.
Ah, gros ouais, bien sûr.
Je te remercie.
J'ai l'impression qu'il...
C'est-à-dire qu'il...
J'endors pendant les chroniques de Ludo, maintenant,
c'est
nouveau.
Ah non, mais là, je vais pas le perturber, vous le perturbez déjà. Je vais pouvoir rajouter un maximum.
C'est-à-dire qu'il...
ne perturbe pas, on participe.
C'est-à-dire qu'ici, la violence est crue, réaliste, ce qui crée son caractère insoutenable, dans certains moments, un seul en l'occurrence, et ce qui participe aussi d'une émotion vraie, parce que, comme dirait l'autre, Une nuit à Montcoq est un film tourné à hauteur d'homme. Il est stylisé, effectivement, c'est du format large. Il y a un réalisme, il y a un fond social, il y a aussi une enquête policière. Ça se terminera, je ne dis pas comment, mais par une scène, d'un lyrisme authentique mais sec, parce qu'il faut bien préciser que notre tueur, enfin tueur, venu de Chine populaire,
enfin tueur,
est aussi à la recherche de son amour perdu, qui est la sous. Du début, la fille accidentée dans ce règlement de compte foireux.
Intubé à l'hôpital.
Et c'est là que le terme coup de cœur, effectivement, je l'emploie parce que je l'avoue, j'ai versé ma larme authentiquement.
Non.
Oui.
Non.
Et on ne se situe pas, je tiens à le préciser, dans un cadre racoleur où qu'il soit. Une nuit à Montcoq est un film qui garde un équilibre parfait, précieux, entre qualité d'écriture, ce qui n'est pas forcément tout le temps la donne à Hong Kong, montage, utilisation de la musique, photographie, propos social, mais qui n'est jamais un pamphlet. Et à ce titre, c'est un très bon film.
Ah oui, je croyais même que c'était le meilleur chef-d'œuvre, parce que forcément, quand
c'est un très très bon film, c'est l'un des meilleurs polars hongkongais que j'ai vu dernièrement. Il faut aussi, j'ai pas eu le temps de parler des flics. La vision des flics est très intéressante, notamment. Je ne sais plus s'il est inspecteur, lieutenant ou commissaire, il y a Alex Fong qui mène la traque, qui est un personnage très torturé parce que lors d'une interpellation nécessairement chaotique, il a battu un type. Il se retrouve en charge d'une brigade dans laquelle figure une sorte de chien fou qui a une propension à dégainer un peu trop vite, ce qui donnera lieu à une scène totalement admirable, je n'en dirai pas plus. Et puis, après avoir dit qu'Une nuit à Montcoq était un film à voir absolument et qu'il est regrettable qu'il n'ait pas bénéficié d'une distribution en salle, signalons qu'Alex, enfin tous les acteurs sont formidables, Cecilia Cheung parfaite, Daniel Wu excellent, Alex Fong juste pour ne pas décevoir les amateurs de cinéma bis, livre une performance tout à fait intense. Après avoir, comme beaucoup d'acteurs de Hong Kong, zoné dans des films qui font mon plaisir. Mon plaisir.
Voilà. Quand on est sorti du pas tout à fait cinéma bis, ça va mieux hein, quand et même. Ça,
ah non, pas du tout. Non.
Ah si, on te sent revenir à la vie.
C'était une forme d'annonce pour une chronique ultérieure à propos des catégories 3. Voilà, Pascal me dira. Le petit Pascal du Havre me demandera oui. Mais quand est-ce qu'on parle des catégories 3 de Hong Kong bientôt.
Il serait temps, par un jour à l'heure.
Bientôt. Alex Fong, c'est un type c'est un acteur qui a un parcours assez extraordinaire, qui a joué à peu près dans tout et n'importe quoi. Donc là, il est excellent, mais il faut préciser qu'il a joué dans des films dont les titres provoquent la stupéfaction en ce qui me concerne. Voilà, quelques-uns. Allez, à la volée, c'est quelqu'un qui a commencé dans la, qui a commencé par les Iron Angels de Teresa Wu, que je recommande. Exploitation, arts martiaux, Girls with Guns. On le retrouve en 90 dans un film dont la traduction littérale serait Derrière la porte rose. Et j'ai particulièrement hâte de voir ça. En 92, il est dans Pretty Woman. Rien à voir avec Julia Roberts. Celle-là, on est a priori, on est dans le scabreux. On le retrouve en 92 également dans Escape from Brazil. Alors là, effectivement, on est dans la catégorie 3. La traduction ne s'impose pas. Il participera également à la saga Gigolo and War. La traduction ne s'impose pas.
Brazil, par contre, j'ai aucune idée de ce que ça signifie. Excusez-moi, mais...
Bordel.
Ah d'accord, autant pour moi.
Et en 1998, on le retrouve au générique dans des épisodes de la saga Raped by an Angel, Sexual Fantasy of the Chief Executive. Et moi, ce type d'acteur qui a un parcours chaotique, éclectique, quitte à tourner dans n'importe quoi, et qui, quand il se retrouve parfaitement dirigé dans un très bon film, est impeccable, j'applaudis à deux mains.
Et bien nous aussi. En tout cas, on peut signaler que ça a énormément plu à deux dessinateurs qu'on aime bien ici, Jérôme Sirou et Gaël Desautez. Je ne sais pas si c'est l'échappée du bordel ou quoi, mais ça avait l'air de leur plaire. Pascal, on avait trois petites annonces avant le morceau de fin de cette émission. Vas-y.
Une expo de gens qu'on connaît bien, parce qu'on les a déjà croisés sur le Festival des Bulots, entre autres.
Et oui.
Une expo de Cyril Platte et Laurent Le Penru, qui sont des sculpteurs qui font des choses assez sympathiques au niveau du métal, style insecte ou des petits bonhommes, etc. Qui se tient, c'est une expo qui s'appelle Créa, trait d'union Tur, au pluriel, qui se tient au musée de Prieuré, 50 rue de la République à Harfleur, en banlieue du Havre, si on peut dire, voilà, du samedi 2 décembre. Ça commence le samedi 2 décembre à 11h30, donc il y a un petit vernissage.
À l'endemain de Horror Show Destruction, voilà. Pardon, Pascal. À l'endemain de Horror Show Destruction Tribute to the Ramones au Rocker en du cœur, ça m'étonnerait qu'à 11h30 on soit à vernissage, mais qui sait.
Mais ceci dit, vous pouvez rattraper après si vous n'allez pas au vernissage, puisque les horaires d'ouverture, c'est le mercredi, samedi et dimanche de 15h à 18h. Voilà, et c'est jusqu'au 24 décembre. Donc ça vous laisse quand même une marge de manœuvre.
Absolument.
Importante.
Merci Pascal. Alors, Anne-Lizy m'en voudrait à mort si je ne signalais pas que, organisé par Petit Corsin et Gros Corset, c'est quand même assez intéressant déjà au départ, samedi 2 décembre également, c'est fou tout ce qui se passe ce samedi, à 20h, au pied nu, avenue Lucien Corbeau, il y aura du slam. Et pour chaque poème lu, un verre sera offert. Donc, slam. Voilà. Tiens, la prochaine fois, je vous parlerai d'Abdelmalik. Mais bon, là, j'ai pas le temps. Je vous rappelle que dans 15 jours, ici même, dans le bar de l'Apple Pie, c'est la 100e émission publique de Radio Ouh Apple Pie. Ouais!
Jolie, ça ne peut rien pas pour la radio.
Ouais. Et le dernier morceau a bien entendu été choisi par Roselyne Mabille.
Attends, je voudrais dire une super connerie avant de finir, parce que bon, bien sûr, Pascal. J'ai habitué à dire des conneries en fin de soirée. Donc, quand on parlait tout à l'heure de la Palestine, effectivement, les Occidentaux sont habitués à avoir leur super jardin entretenu, etc. Donc, imagine un Anglais qui revient voir, hein, qui vient voir un. Un Palestinien, et qui lui dit « Naplouse est bien tendue
ah ?» Hélas, oui.
Hélas, trop tendue.
We'll be right back. chantant notre drapeau rouge dans le vent. C'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. À la bourse, l'argent produit de l'argent, et pourtant la précarité s'étend. Prenez garde, bonne Jean, pendant qu'il est encore temps. Prenez garde, bonne Jean, pendant qu'il est encore temps. Euro Disneyland en avant, des Mickey pour les enfants, le RMI pour les grands. Leur méthode ne date pas d'hier, ils laissent grandir la misère. Puis ils nous préparent la guerre, ils la disent humanitaire. Puis ils nous préparent la guerre, encore une guerre des dettes. Seulement que c'est le printemps, mais c'est qu'il est bien vivant. C'est pas seulement que c'est le printemps, mais c'est que nous sommes.